Donc, je reprends rapidement. Pour ceux qui étaient là et pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. On a commencé donc la semaine dernière la lettre 21, qu'on va finir aujourd'hui, Bezrat Hashem.
Merci.
Dans cette lettre 21, l'Admour Hazaken s'adresse à des donateurs du ce qu'on appelait le Kolel Chabad. Kolel Chabad, ça veut dire... C'est bon, messieurs ? Allez. D'accord. Donc dans cette lettre, l'Admour Hazaken s'adresse à des donateurs de Kolel Chabad, ça veut dire des donateurs pour des yeshivot en Israël. On a expliqué la semaine dernière à quel point l'état des yeshivot en Israël, surtout à l'époque, était vraiment catastrophique. On s'en vient de commencer. Et donc, on a expliqué que l'Admour Hazaken essaye de relancer ces gens-là. Donc c'est des gens qui ont déjà donné, c'est des gens qui comptent donner, mais qu'il faut les relancer un petit peu, il faut... comme il a expliqué, on a dit la semaine dernière, on a dit que des fois, on est plein de bonnes intentions, mais dès qu'il faut mettre la main au portefeuille, c'est là que ça devient compliqué. Donc le but de cette lettre, c'était un petit peu tout d'abord de nous amener à la zrizout. Zrizout en hébreu, qui se rappelle, ça veut dire là...
L'empressement,
chazak, d'accord. Donc on a amené... La semaine dernière, on a surtout développé le côté zrizout. Ça veut dire, on a expliqué que... Donc je vais reposer le cas qu'on a posé la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là. On a dit... Imaginez, on sait que c'était ramassé à l'année. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'on savait que les dons étaient récoltés à l'année et que chaque année, dès qu'arrivait le mois de Elul par exemple, il y avait un émissaire qui partait de chaque ville, qui partait dans un centre où tout l'argent était rassemblé. Et après, on avait une escorte qui amenait ça en Israël. On savait qu'on le faisait une fois par an.
Alors c'est ça qui m'a un peu interpellé cette semaine.
Alors attends, juste, j'explique la question d'abord. D'abord, je pose le problème. Donc la question qu'on a posée, on a dit, c'est des gens qui vont te dire, qu'est-ce que ça change? Imaginons qu'au début de l'année, j'ai pris sur moi de faire un don de 1000 euros cette année pour la caisse. Toute l'année. Pour l'année, j'ai prévu. Qu'est-ce que ça change maintenant si je vais donner toute la somme maintenant? Toutes les façons, cette somme va dormir, puisque de toutes les façons, jusqu'à la fin de l'année, personne ne va s'en servir, parce que la caisse va être vidée seulement une fois par année. Ou si je vais donner chaque mois 100 euros. Et puisque de toutes les façons, je sais que l'argent ne sera pas utilisé. Donc c'est la question qu'on s'est posée la semaine dernière, à laquelle on va essayer de répondre. Pour répondre à cette question, en vérité, et donc, la semaine dernière, on a développé que le premier côté, on va devoir se poser la question, qu'est-ce qui est plus important dans une mitzvah? Est-ce que c'est le fait de faire la mitzvah le plus vite possible, le plus rapidement possible, pour montrer que je veux la faire? C'est le numéro un, qu'on va redévelopper rapidement. Ou bien, le deuxième côté qu'on va développer aujourd'hui, ou bien, hein, ce qui est plus important dans la mitzvah, c'est l'aspect récurrent de la mitzvah. Ça veut dire que, à la limite, même si quand tu fais c'est un petit peu, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu le fais constamment, le plus souvent possible. Et ça, c'est des questions qu'on se pose tous les jours. D'accord? Regardez, je vais vous donner un exemple. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a fait le Shabbat une fois par semaine? Il aurait pu faire un autre système? Parce qu'après, ça devient récurrent, on tombe dans la routine. Il aurait pu dire, tu fais pas Shabbat. Tu fais un Shabbat par mois, mais tu mets le paquet. C'est exactement la même question qu'on se pose. Seulement, au lieu de parler de Tzedaka, je parlais du Shabbat.
Ouais, le Shabbat pendant une semaine.
Bah oui. C'est en vérité, c'est la même question qu'on se pose. C'est est-ce que. Donc en vérité. Parce qu'après, j'essaie de réfléchir un petit peu comment. J'ai vu que la semaine dernière, il fallait encore repasser une couche. Donc en vérité, quand on réfléchit encore, on voit que la question ici, le fond de la question, c'est est-ce qu'il faut privilégier la quantité ou la qualité? C'est ça en vérité le fond de la question. J'explique. C'est-à-dire que là, de toutes les façons, la somme ne changera pas.
Oui.
J'ai prévu de donner 1000 euros, je vais les donner. La question maintenant, comment je vais le faire? Est-ce que je vais privilégier la qualité? Ça veut dire, je dis, regarde, Akadosh Baruch Hu, je voulais donner, je donnais tout de suite.
Waouh.
D'accord, bravo, il a donné tout de suite, alors qu'il pouvait attendre quelques mois. Ou bien, hein, je dis, non, écoute, ce qui compte, c'est la quantité. C'est-à-dire, c'est le fait que je vais le faire plusieurs fois, et que chaque fois, je vais mettre la main à la poche. Donc, la semaine dernière, on a développé plutôt le premier côté. On a dit, on a amené une preuve, on a dit, tu sais, quand on parle par exemple d'Avraham Avinu, on dit à chaque fois dans les tefillot de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, et tous les matins, on mentionne le srout d'Avraham Avinu qui a fait l'Akeda. On a dit, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'Akeda? Il n'y a rien. Parce que, en plus, Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il était prêt? Il était prêt à tuer son fils. Est-ce qu'il a tué son fils concrètement?
Non.
En plus, Dieu lui a parlé. En plus, la Neshama qu'Avraham Avinu avait, c'est sûr qu'il allait l'accepter. Nous, on connaît des gens que Dieu ne leur a pas parlé. En tout cas, du moins, ils n'ont pas senti que Dieu leur a parlé. Et ils ont donné leur vie.
Quel empressement qu'il a fait.
Alors, qu'est-ce qu'on a de particulier chez Avraham Avinu? Le srout d'Avraham Avinu, c'est qu'il a eu l'empressement. Et c'est de là qu'on apprend que toutes les mitzvot qu'on doit faire, on doit le faire avec empressement. Donc, il dit a priori, si on suit cette logique, c'est évident que la mitzvot de Tzedaka doit être commise avec empressement. Ça veut dire que je dois donner le plus tôt possible, le plus vite possible. D'autant plus que la Tzedaka nous sauve de La mort.
Nous sauve la vie, monsieur Lamour. Arrête de donner. Je te rends le chèque.
Nous sauve la vie, il a dit.
D'autant plus que la tzedaka nous sauve de la mort. Et donc, on a dit en plus qu'on est jugé tous les jours. Donc ça veut dire que si je donne le paquet maintenant, peut-être que ça va me juger d'un jugement qui va avoir lieu demain matin. Donc il faut, ou même ce soir quand je vais faire un ravit, parce que chaque fois qu'on fait une amida, on est jugé. Donc ça c'est le premier.
Mais si on ne fait pas l'amida,
ah ben non, de quoi qu'il arrive. Non, au contraire. C'est que malheureusement, il sera jugé aussi sur le fait qu'il ne fait pas l'amida.
Ah merde. Ah mince.
Allez, un verre de bourrin.
Coupé.
Je crois qu'il y en a qui nous conneries.
Donc, ça c'est le premier côté qu'on a développé la semaine dernière. Maintenant, si vous voulez bien, on va reprendre en Har Gamzot. Ouais. Donc, la semaine dernière, on avait fait 5-6 lignes encore, mais je vais le refaire dans les mots. Donc là, maintenant, on va développer le deuxième côté. Est-ce que le premier côté est clair ?
On n'avait pas conclu la semaine dernière.
Ah non, pas du tout.
Si, on n'avait pas conclu que la semaine dernière, que la récurrence, dans le cas précis, elle était plus importante.
Ça dépend, on va voir.
Si, on avait répondu.
On avait dit, attendez, doucement. On avait dit que je vous avais donné les grandes lignes.
Je n'ai pas d'avis.
D'accord, mais maintenant, il faut rentrer dans les détails.
Si, on avait dit, parce que mettre main à la poche chez quelqu'un, c'est toujours dur.
J'ai compris. Maintenant, tu as le Gmar Echad qui a fait un appel ce Shabbat.
Oui.
Ils ont besoin de l'argent tout de suite.
Ça, n'est-ce pas ?
D'accord ? Alors, est-ce que je peux payer en 20 fois ?
Non, ça n'a rien à voir. Là, ils ont besoin d'argent tout de suite.
Non, là, on précise bien que c'était un cas. Mais quoi qu'il se passe,
Alors, on va expliquer.
Il a bien dit, c'est ponctuel.
C'est ponctuel, oui. Non, mais il a bien précisé à plusieurs reprises. Il a raison de le préciser, d'ailleurs.
C'est ponctuel, mais deux fois par an.
Oui, mais ça veut dire,
c'est, mais ça veut dire, c'est pour tout de suite.
Oui, c'est pas, mais ça veut dire,
elle est particulière. Ça veut dire, pas attendre, elle
non, mais ça veut dire, moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'on vous fait pas un appel pour un don qu'on va donner aux gens, dans 4 mois. Bah c'est maintenant. D'accord? Ok. Donc, le premier côté, on l'a développé longuement la semaine dernière. L'aspect de la zrizout. Le fait que, d'un côté, il faut faire la mitzvah le plus vite possible et que c'est un grand mérite de faire la mitzvah le plus vite possible et que ça nous sauve de beaucoup de choses. D'accord. Har Gamzot. Maintenant, regardez. Har Gamzot, Matsanu Ra'inu, vous avez de la page 266. Har Gamzot, Matsanu Ra'inu, Bavodat Hatzdaka. Nous avons trouvé autre chose dans la mitzvah de la Tzedaka. Que, c'est vrai que d'un côté on a dit que c'est important de faire la Zrizout. Mais d'un autre côté on a vu, Ma'ala Pratiyut, une qualité exceptionnelle, Gdola Venifla, grande et extraordinaire, Enarochelea, que particulièrement dans la mitzvah de Tzedaka. Et ça, c'est une qualité qu'on va retrouver dans la tzedaka, qu'on ne retrouve pas dans les autres mitzvot. Par exemple, dans les tefillin, il n'y a pas ça. On te dit pas, il y a une différence si tu mets les tefillin une fois par jour, une fois par an. Il n'y a pas ces différences-là. Ce qu'on va expliquer aujourd'hui, le fait de faire plusieurs fois la mitzvah, eh ben, c'est un sroud particulier. C'est quelque chose qui existe uniquement sur ce qu'il y a. J'étais en train de dire que là, maintenant, on va développer. Ce qu'on va développer aujourd'hui, ça va être valable uniquement pour la mitzvah de Tzedaka. Que dans la mitzvah de Tzedaka et tout ce qui est en rapport avec l'argent, Akadosh Baruch Hu, il sait que tout ce qui est en rapport avec l'argent est difficile pour nous. Et chaque fois qu'on met la main à la poche, c'est une mitzvah. Chaque fois. C'est ce qu'on va développer.
Sans rien sortir.
Tout le monde a un problème quand tu mets la main à la poche.
Chacun à son niveau.
Bah, je vérifie si y a mes clés.
Chacun a un point de rupture. Ah oui.
Oui, un point de rupture, d'accord.
Voilà, eh ben, c'est ça.
Tu peux donner de ce que tu voilà. donnes, bien sûr, il y a un point de rupture.
Pour tout le monde, mettre la main à la poche, c'est compliqué. Pour tout le monde.
Au quotidien, c'est pas une contrainte.
Ça dépend comment tu donnes.
Voilà, c'est au quotidien, ah oui. c'est pas.
J'ai compris. Donc, on va expliquer aujourd'hui.
C'est une habitude, au contraire.
Eh ben, pour toi, c'est devenu une habitude. Pour toi, c'est devenu une habitude. Mais inconsciemment, d'accord, sache que le fait même que tu mets l'argent dans ta poche, c'est une claque que tu mets à ton etc. Ce qu'il va expliquer aujourd'hui. C'est une très bonne question ce qu'il pose. Marcel, il dit, mais des fois, on ressent pas.
Bah oui.
C'est machinal, quoi. Je mets la main dans la poche, je mets la pièce et tout. Bon, il y a un don, je donne et il n'y a même pas eu de combat.
Non, mais c'est pas.
En vrai, ça dépend de la somme.
Il va expliquer un grand chidouche aujourd'hui.
Ça dépend de la somme.
Il va expliquer que même s'il n'y a pas de
combat. Oui, le matin qu'on donne.
Oui, mais il dit, imaginons quelqu'un n'a pas de combat.
Ça ne dérange pas. Maintenant, si on devrait mettre des billets.
Mais attends. Non, je vais expliquer la question. Imagine-toi la personne qui a décidé qu'il va donner 1000 euros de don à l'année. Toutes associations confondues. Il a décidé qu'il va donner ça. D'accord? Donc, quand il y a quelqu'un qui fait un appel pour une association, pour Gmachechat, pour ce que tu veux, d'accord? Non, donc, dans sa tête, il se dit, je le prends sur mon capital, donc est-ce que c'est difficile pour lui? Non, c'est pas difficile. Alors, pourquoi tu me dis que c'est important de le faire en plusieurs fois? Il va expliquer ici quelque chose de très important, un chidouche très important, c'est que dans la tzedaka, même si on le ressent pas, chaque fois qu'on met la main dans la poche, c'est une claque au yitzhara. Même si moi je crois que c'est déjà acquis. Il n'y a rien qui est acquis. Dans l'argent, il n'y a rien qui est acquis. C'est curieux ce qu'il va expliquer, parce qu'apparemment, il y a un rapport particulier avec l'argent, qui fait que, et ça, il va se passer sur Maïmonide, c'est Maïmonide qui dit ça. Maïmonide, il dit, chaque fois qu'une personne met la main à la poche, il casse son Yetzara, du style, il lui dit, cet argent-là, t'aurais pu l'utiliser pour toi, tu le donnes. Même si j'ai déjà décidé que j'allais le faire, ça change pas. Décider de le faire et le faire, c'est deux choses différentes. On est d'accord?
L'action.
Ah, Zach, voilà. Alors maintenant, on va développer.
C'est pour ça, Rabbi a dit, je veux que tout le monde lève la main, comme ça, on est sûr. La décision, elle sera prise.
Elle a expliqué pourquoi. C'est écrit en Shulchan Aruch. D'abord parce que c'est un engagement. Et c'est un engagement, c'est écrit qu'un engagement qu'on fait devant une communauté, il y a plus de force.
Oui, c'est écrit. Surtout quand tu lèves la main.
Bien sûr. Après, tu peux dire Matana. Après Matana, c'est, on ne sait pas ce qu'est Matana.
Matana, tu ne sais même pas toi-même.
Ar, Kamzot, Matsan. Donc, il dit comme ça. Je reprends dans les mots. Ar kamzot matzan, on va accélérer un petit peu parce que les premières lignes j'ai déjà faites. Ar kamzot matzan uraïnu bavada tzedaka, on a vu une autre qualité dans le travail de la tzedaka. Écoutez bien. Ma'ala pratiyut gdola venifla, une qualité particulière, grande, extraordinaire, en arochelea, particulièrement dans la tzedaka. Liot ma'ase tzedaka, que dans certains cas, on préfère, qu'on va développer tout de suite, que la tzedaka soit faite, na'aset bepa'amim rabot, que ce soit fait en plusieurs fois. Et plus je le fais en nombre de fois, et mieux c'est. Ah, c'est un grand chidouche. C'est-à-dire que le gars, il va payer en pièces de 5 centimes. David, il m'a dit, je te préviens, je vais amener à ton père des...
J'ai pas osé, la vérité, j'ai pas osé.
Des sacs de...
Ça m'a tenté, mais...
J'en ai pas parlé à mon père encore, hein. Non, oui. Il a déjà fait cette lettre, mais je lui ai pas dit qu'on l'a étudié ici. Vélo pas machat ou pas tachat. Alors, maintenant, il faut qu'on développe ça, parce que ça, c'est important. Parce que, finalement, quand on réfléchit, la somme est la même. Qu'est-ce que ça change? Au début de l'année, j'ai décidé de donner ça, je vais donner ça. Qu'est-ce que ça change? À quoi on joue ici? Il va expliquer quelque chose de très très important. Donc, velo befa'amachat ou vatachat, ne pas le donner en une seule fois et en un coup, gam ki asar hakolel echadou. Bien qu'a priori, la somme totale, de toutes les façons, restera la même. Pourquoi? Kemo shekotev a Rambam zel befirush haMishnah. Le Rambam écrit dans son commentaire sur la Mishnah de Pirkei Avot, c'est écrit, Shanu Chachamim, Zal, que les Chachamim ont enseigné dans le Pirkei Avot, Akol, Lefi, Rov, Amasi. Rambam, il dit comme ça. Il dit que tout dépend, écoutez bien Rambam, il dit que la Mishnah dit, tout dépend,
la majorité des actions,
du nombre des actions. Alors Rambam, il dit, mais pourquoi tu dis tout dépend du nombre des actions? Pourquoi tu dis pas tout dépend de la grandeur de l'action? Quand tu dis le nombre, ça veut rien dire, le nombre. Ce qui compte, c'est pas le nombre de fois en combien tu l'as fait, ce qui compte, c'est la grandeur de l'action. Quand tu as a priori quelqu'un qui a donné 1000 euros en un coup et un autre qui a donné 1000 euros en 1000 pièces de 1 euro, ben c'est évident, a priori c'est la même chose. Et ben le Rambam dans son Pirush HaMishnayot, il dit non. Il dit on sait à quel point les mots de nos Chachamim sont précis dans la Mishnah. C'est une Mishnah, c'est pas une Mishnah, c'est très sérieux. Une Mishnah c'est encore plus précis que la Gemara. Dans la Gemara des fois il y a des pages entières pour un mot d'une Mishnah. Et ça c'est une Mishnah. Et la Mishnah qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit akol lefi rov amasé. Que tout dépend. Rov amaasé, ça veut dire du nombre de fois qu'on fait une action, la récurrence, et il te fait remarquer Rambam, il te dit attention, la Mishnah n'a pas dit, akol lefi, que tout va suivre, godel amaasé. Godel amaasé, ça veut dire là, godel, gadol, c'est quoi gadol en hébreu? La grandeur de l'action. C'est-à-dire qu'à la limite, la grandeur de l'action, c'est un deuxième paramètre qui est moins important, qu'on développera après, bien sûr que c'est aussi important. Mais, quand on parle de la tzedaka, quand on parle du maasé, ce qui compte, c'est le rov. Rov, ça veut dire quoi? Dans le mot rav, il y a le mot nombreux. Ça veut dire le fait que tu le fais en plusieurs fois. Et le Rambam, il donne clairement cet exemple. D'accord? Espanin, vous pouvez peut-être être étonné pourquoi je disais à chaque fois le chiffre 1000 euros. D'accord? En vérité, j'invente rien. C'est Rambam. Parce que Rambam, il donne l'exemple comme ça. Rambam, il dit, si une personne a pensé donner 1000 pièces d'or en un coup. Ah, c'est pas mal, vous voyez, lui, 1000 pièces d'or, hein. Il a tapé fort.
Napoléon, c'est 1000 euros. Napoléon, 20 francs, pas les 10 francs. Non, prends pas les 10 francs.
Alors, il dit comme ça. Il dit que quand une personne, et le Rambam, et ça, on a essayé de développer aujourd'hui. Il dit comme ça. Il dit, imaginons une personne a décidé, il a de quoi? Il a décidé de donner 1000 pièces d'or à la tzedaka. Et il les a données. Rambam, il développe en deux mots, il dit ça. Il dit, nous, ce qu'on cherche, c'est pas seulement l'action de la tzedaka. Écoute, retenez bien ces deux mots. C'est le kinyan ben nefesh. Je vais traduire et je vais expliquer. Kinyan ben nefesh, ça veut dire l'acquisition de l'âme. Ça veut dire quoi l'acquisition de l'âme? Ça veut dire que quand on fait des actions, à force de faire quelque chose, ça devient un acquis chez toi. Ça devient quelque chose que tu as travaillé, tu t'es travaillé, et ça devient un acquis, ça devient plus facile la prochaine fois. Eh bien, Rambam te dit, Quand une personne a fait un gros don, il l'a fait en une fois, ça y est, c'est fini, il l'a fait.
Il a perdu cette activation.
D'accord? Eh ben, il n'a pas forcément gagné une victoire, une bataille contre le Yetzarara. Il a gagné une bataille d'une minute, peut-être. Mais la prochaine fois qu'il devra faire un don, il devra tout recommencer à zéro.
La même bataille.
Pourquoi? Parce qu'en vérité, il a gagné une bataille pour 5 minutes. Comment pour 5 minutes? Hop, il a claqué, il a donné, c'est fini. C'est possible qu'après, il va regretter. D'accord? Parce que c'est trop tard, il a déjà payé.
Et c'est pour ça qu'il a donné.
Exactement. C'est pour ça qu'il a donné, parce qu'il a peur de regretter. Et la prochaine fois qu'on lui propose, ou bien peut-être pour la résoudre, mais la prochaine fois qu'on lui proposera, on lui dira, alors tu veux donner la même chose comme l'année dernière? Il va réfléchir. Pourquoi il va réfléchir? Parce que te dit Rambam, dans ce cas-là, c'est vrai que la somme, il a donné. La somme, c'est la même. Mais on n'a pas eu le kinyan ben nefesh. Ça veut dire que son nefesh, son âme, psychologiquement, il n'a pas encore réellement acquis et admis ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'il y a ce que je fais, et il y a le fait que j'admets ce que je fais, et que j'ai acquis, que c'est un acquis, et que la prochaine fois que je voudrais le faire, ça sera plus facile. Alors je termine juste la logique, et après les questions. Rambam te dit comme ça. Il te dit que quand tu fais une action en un coup, ton cerveau, ton corps n'a pas le temps de s'habituer. Et donc du coup, tu t'es pas vraiment battu contre ton Yetzarara. Tu as eu peut-être une grosse bataille qui a duré quelques minutes, et après c'est fini. Après c'est oublié. Donc c'est pas quelque chose qui est durable. La prochaine fois que tu devras le faire, tu auras du mal. Alors que si tu le fais en plusieurs fois, après chacun il va décider. Chaque fois que tu fais en plusieurs fois, en vérité, ça donne à ton Yetzarara le temps de se dire peut-être j'ai regretté, je vais regretter, peut-être j'ai trop donné. Et là, il peut regretter parce qu'il a pas tout donné encore. Et c'est entre lui et Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que par exemple, il a décidé de donner 1000. Peut-être que quand il arrive à 800, il va dire bon, j'arrête. Quand on viendra lui demander, il dira écoute, je peux plus. Lui, en vérité, il comptait donner 1000. Mais il regrette à 800. C'est-à-dire que chaque fois, c'est son Yetzarara qui il doit faire un micro-combat avec son Yetzarara. Après, chacun à son niveau. C'est pas un problème. Là, l'année prochaine, quand on viendra lui demander, c'est pas un combat qu'il aurait avec son Yetzarara. C'est 12 combats qu'il a eu avec son Yetzarara. Parce que 12 fois, il s'est battu avec son Yetzarara. Et donc, dire un bam, quelque chose de très important. Pendant ta question, il dit, le but des mitzvot, c'est pas seulement de donner. Parce que tu crois à Kadosh Baruch Hu pour donner. Tu crois qu'il a besoin de moi pour donner à un pauvre? Kadosh Baruch Hu, il donne à qui il veut. Il a pas besoin de personne. Il peut faire qu'il fait ce qu'il veut, comme on expliquait la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu? C'est quoi le but des mitzvot? Ça, c'est un grand yesod, une très grande base dans les écrits de Maïmonide. Il dit, le but des mitzvot, c'est le kinyan benefesh. Kadosh Baruch Hu veut nous aider à nous travailler. Chaque mitzvah, il y a un but. Dans chaque mitzvah, il y a un but, c'est pas seulement de faire la mitzvah, c'est de nous travailler sur une mida personnelle. Par exemple, les téphilines, ça sert à quoi? Ça sert à nous aider à travailler la soumission. Soumission du cœur, soumission de l'esprit. Les mezouzas, ça sert à quoi? Ça sert à nous aider à avoir le bitachon. Qui c'est qui garde la maison? C'est Akadosh Baruch Hu. Chaque mitzvah, il y a l'aspect, bien sûr, technique de la mitzvah, mais il y a le kinyan benefesh. Il y a l'acquisition de l'âme, ça veut dire ce que l'âme va obtenir de ça. Eh ben, te dire, Rambam, dans la tzedaka, le kinyan ben nefesh, quand tu donnes toute la somme d'un coup, il peut être tellement rapide que du coup, t'as rien retenu. Du coup, ton Yetzarara, bon, pour lui, c'est, d'accord, la prochaine fois, je me ferai pas voir.
Si tu vas doucement pour les donner.
Alors que quand tu vas doucement,
c'est
tu enfonces
doucement. Ouais, tu réfléchis.
Quand tu vas doucement, tu sais, j'ai vu un exemple comme ça aussi. Il dit, quand tu enfonces d'un coup, c'est comme quand tu prends un clou, tu l'enfonces d'un coup. C'est trop tard, le clou, il est enfoncé. La prochaine fois, je réfléchirai. Mais quand tu prends le clou, à chaque fois, t'enfonces un petit peu plus, comme ça. Et à chaque fois, le Yetzarara, tu le tues. D'accord? Et à chaque fois, et surtout à la fin, plus tu avances, plus c'est difficile. Tu dis, bon, ça va, j'ai donné. Combien on va donner? Surtout quand des fois, ça peut venir en conflit avec un confort que j'aurais pu avoir. Moi, après, t'as les vacances qui approchent, jusqu'à proche. Tu dis, attends, si j'avais pas donné ça, j'aurais pu passer peut-être de vacances un peu meilleures. Tu comprends? Après, chacun à son niveau. Et ben, du coup, ça, il te dit, ce combat qu'il y a avec le Yetzarara, c'est exceptionnel. C'est un kinyan benefesh. Ça fait que je m'habitue à me battre contre mon Yetzarara. Et ça, c'est quelque chose de très fort de gagner. On va développer encore.
Hein, non, quoi,
pas que la tzedaka, toutes les méthodes. Mais le combat est fort, particulièrement dans la tzedaka, quand il y a de l'argent. Voilà pourquoi, quand c'est possible, bien sûr, quand on n'a pas le choix, et quand il faut donner d'un coup, il faut donner d'un coup, il n'y a pas le choix. Mais quand on peut donner en plusieurs fois, c'est mieux. D'accord? Pour que le travail sur le Yetzarara soit plus durable, soit plus efficace.
Justement, concernant ça, sur le Yetzarara, la personne, elle sait que si elle donne pas maintenant, le Yetzarara va gagner parce que s'il l'état dans plusieurs fois, il y a beaucoup de choses qui va se passer, qui peut se passer, et c'est qu'il risque de pas donner. Il est même pratiquement sûr de ne pas donner.
Il a
déjà eu l'expérience et effectivement, il n'y a pas eu.
Non, mais aujourd'hui, on ne donne pas une seule fois de toute façon.
Non, au contraire, je demande.
Oui, alors c'est quoi la question? Donc, est-ce qu'il faut tout donner d'un coup?
Oui.
C'est mieux si tu ne dois pas la faire.
Quand tu donnes un emploi, tu n'as pas l'impression
de faire. Parce qu'il a fait, effectivement, il n'a pas fait la totalité.
Quand tu donnes un emploi, tu n'as pas l'impression de faire des mises autres souvent.
Il a raison, ouais. Je vais répondre à vos deux questions.
Lui, il sait, le problème, c'est que cette mitzvah-là, soit il l'a fait bien maintenant, soit c'est sûr que par rapport à ce qu'il avait promis, il ne donnera pas la totalité.
Tu ne sais pas.
Le but, c'est
qu'il a déjà fait l'expérience.
Bien sûr que le but, c'est que tu donnes. Je vais te raconter quelque chose. Je vais te raconter une histoire que j'ai déjà racontée dans un cours de Tanya une fois, mais je crois que la majorité
n'est pas là. Comme j'ai dit, on a fait le calcul de tout l'année.
Une fois, l'Admour Hazaken, l'auteur du Tanya, était en visite dans les communautés. Et en chemin, il s'arrête dans une auberge. Des juifs qui l'accueillent, etc. Donc on l'accueille, on lui fait un kavod comme on ordonne à un roi. Et le lendemain, l'aubergiste avec sa femme, il demande à Admour Hazaken, il dit « Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait vous parler en privé ?» Bien sûr, ouais, pas de problème. Qu'est-ce qui se passe ? Il dit « Écoutez, on a un problème. » Il dit « Comme vous avez pu remarquer, d'accord ? Non, c'est pas Shalom Bayit. Comme vous avez pu remarquer, les gens qui viennent ici, il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, qui sont sur la route, qui sont pauvres. Et nous, quand on les voit arriver, bien sûr, on leur donne le prix quand ils arrivent, mais quand on voit qu'ils n'ont pas de quoi, on leur demande pas. Le lendemain, on dit « Bon, on s'arrangera la prochaine fois. » Et pas seulement ça, on leur donne même à manger. Bon, Zaken dit « Très bien, bravo, très très bien. » Il dit « Mais il y a un problème. » Le problème, c'est que à chaque fois, les gens, quand on fait ça, les gens ils nous disent merci. Et nous, ce merci, on l'attend. On l'attend. Ouais, je vais raconter une fois. On l'attend, ce merci. Et donc, écoute, ça va répondre à ta question, ça. Et ils ont posé la question à l'Admour Hazaken, ils ont dit, alors, puisque nous, on l'attend, ce merci, donc, est-ce qu'on doit arrêter de faire la mitzvah? Parce que, on sait pas si on le fait pour la mitzvah. Honnêtement, on pense pas qu'on le fait pour la mitzvah. Honnêtement, on le fait parce que, on kiffe le merci. On kiffe quand ils nous disent merci. Ils disent merci beaucoup, vous nous avez sauvé la vie, etc. L'Admour Hazaken a réfléchi. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu à l'Admour Hazaken? L'Admour Hazaken, il a dit, mais le pauvre, il mange. C'était ça la réponse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, bien sûr, au bout du compte, si tu penses, d'accord, qu'il faut tout donner d'un coup parce que sinon on n'arrivera pas, bien sûr, ce qui compte, c'est que le pauvre va manger, ce qui compte, c'est qu'il faut donner. C'est évident, ça. D'accord. Mais,
oui, la meilleure
c'était quoi le... Pourquoi j'ai raconté l'histoire? Parce que le fond de la question, c'était quoi? C'était que le pauvre, il mange, mais le travail que ça devrait faire sur nous, le kinyan benefesh, il n'est pas là parce que nous, on le fait pour le kiff. On le fait pas pour la mitzvah de donner la tzedaka, on le fait parce qu'on kiffe qui te dit merci. Donc la question qu'ils ont posée, ils ont dit qu'est-ce qu'on fait? Apparemment, le travail n'est pas fait sur nous parce qu'on le fait pas pour la mitzvah, on le fait pour le merci. Il dit, tu fais quand même.
Oui et non.
Oui, tu fais quand même parce que.
Non, parce qu'il n'est pas censé savoir qu'il va dire quand même merci.
Bah, il dit merci.
Il ne force pas à dire merci.
Il ne force pas, d'accord.
Ça se peut qu'un jour il y en ait qui ne dit pas merci, donc oui, vraiment il n'attend pas. Oui, s'il ne dit pas merci, il va dire ah non.
Non, il lui dira ah, il ne dit pas merci.
Non, ça m'étonnerait.
Non, mais il leur a fait de mauvais cœur.
Il va dire
non. Il en
aurait
rien.
Mais non, parce qu'il a déjà fait.
La prochaine fois, il va le taxer. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est évident que ce qui compte, c'est de faire l'action. Mais si tant qu'à faire, on peut gagner, on peut mieux rentabiliser son argent, de faire en sorte que non seulement je donne l'argent, que de toute façon je comptais donner, mais à part ça, j'ai réussi à faire le kinyan benefesh, c'est-à-dire j'ai réussi à me travailler sur mon yitzhar hara, c'est encore mieux. D'accord? Comme a dit Marcel a dit un très bon point. Il a dit, quand tu fais quelque chose en une fois, tu le sens pas vraiment. Tu sens pas que tu l'as fait, tu l'oublies. Quand on fait quelque chose en un coup, bon, c'est pas qu'on s'en débarrasse, Rav Shalom parlait comme ça, mais ça y est, c'est fait. Il n'y a pas le kinyan benefesh.
Pas forcément.
D'accord. Merci. Ça dépend des personnes. C'est vrai que ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes.
Ne me dis pas que ça ne te fait pas plaisir si tu pouvais donner 50 fois dans l'année, de ne pas donner 50 fois dans l'année.
Non.
Moi, je pense que...
Je pense que ça veut dire que vous donniez à plusieurs organismes.
À part pourquoi?
Au début du cours, on parlait d'une seule caisse, d'un émissaire. Aujourd'hui, il y a plusieurs caisses, plusieurs émissaires.
Cas,
je pense en vérité de donner, avec effort, en plusieurs fois, c'est donner à plusieurs caisses. Je regarde dans la boîte aux lettres, par exemple,
vous pourriez.
J'ai réuni beaucoup de questions, je vois 6 ou 7 lettres. C'est une demande de nom.
C'est
organismes que j'ai envie de faire plus. Alors tu dis, tu donnes déjà au Betrabat. Après, tu donnes au Gmar. Après tu donnes à l'autre, et d'un coup dans ta boîte aux lettres, t'as 7 courriers qui débarquent. C'est pour Pessah, c'est tous les ans. Tu te dis quoi? Tu dis, j'ai assez donné, le Kadosh Baruch Hu, il veut que tu donnes encore, tu fasses un effort encore pour eux.
Vouloir défendre le Beit Rabbah, les institutions locales sont prioritaires.
Une fois que tu as donné au Beit Rabbah, après tu ouvres quand même ta boîte aux lettres, faut donner. Et c'est là que je pense que l'effort il commence, c'est avec ce courrier-là qu'il commence. Parce que finalement, c'est pas vraiment l'effort de donner au Beit Rabbah, de Nogmar, parce que c'est ta communauté, t'as envie de... Mais quand tu reçois justement des lettres extérieures, des organismes extérieurs, c'est là je pense que Et moi, le cours, toute la semaine, il m'a... Parce que j'ai trié mon courrier, tu vois. À un moment donné, je me suis rendu compte, j'ai 6, 7...
Si par exemple, une personne... Tu parles du Betraban. Si par exemple, bonsoir. Si par exemple, une personne a le choix entre faire un gros don à Kippour, comme pour acheter une grande mitzvah, ou bien acheter plusieurs enchères pendant l'année. D'après ce qu'on vient d'expliquer, qu'est-ce qui est préférable?
Plusieurs enchères.
C'est clair. Voilà. C'est évident. La réponse est là.
Maintenant,
si on peut faire les deux, tant mieux.
Maintenant, ouais. Si quelqu'un a le choix,
oui,
faire un gros don à une institution, dans le même moment, hein, ou faire un gros don à plusieurs institutions.
Un gros don à plusieurs, quoi.
Non, c'est-à-dire que, par exemple, on va prendre une somme, on va dire, une grosse somme.
Genre 1000 pièces d'or.
Genre 1000 pièces d'or à une institution, ou 1000 pièces d'or à 10 institutions. Il n'y a pas
de halakhot pour ça. Ça veut dire que, bien sûr qu'il y a des niveaux de priorité. Mais quand on est dans le même niveau de priorité, ça c'est quelque chose que Kadosh Baruch Hu nous laisse décider. Personne ne peut se mêler de ça. Mais il y a des niveaux de priorité.
Oui, tu as dit la semaine dernière.
Voilà. Mais une fois qu'on est au même niveau de priorité, ça c'est la chance qu'on a que Kadosh Baruch Hu nous laisse décider. D'accord ? On y va. On continue. Donc, dans les mots. Alors, le Rambam, il ne parle pas seulement de Kinyan Benefesh, il parle aussi de Zichur Benefesh. Et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Kinyan Benefesh, on a dit, c'est quoi ? C'est le fait que chaque fois qu'on fait une mitzvah, chaque fois qu'on s'est battu contre son Yitzhara, chaque fois qu'il y a une bataille contre le Yitzhara, il y a une acquisition. C'est quoi l'acquisition ? C'est quoi l'acquisition ? C'est quoi l'acquis ? L'acquis, c'est que la prochaine fois que je le ferai, chaque fois que je le fais, la prochaine fois que je le ferai, ce sera plus facile. C'est une première chose. Mais le Rambam développe un deuxième point, ce qu'on appelle zichur. Dans le mot zichur, il y a le mot zach. Zach en hébreu qui veut dire pur. Purification de l'âme. Bon, c'est vrai que ce terme, il n'a pas l'air trop de chez nous, mais ça vient de chez nous. Zichur benefesh, comme srout, oui, bien sûr. Zichur benefesh, c'est-à-dire que chaque fois qu'on fait une mitzvah, on purifie l'âme. Il y a une purification qui est faite à l'âme. Et chaque fois que... Alors ça c'est encore plus intéressant.
Ça veut dire purifier.
Ah, justement, ce qu'on va développer maintenant. C'est-à-dire qu'apparemment, rien à voir avec l'acquis psychologique que j'ai fait une fois, deux fois, donc du coup, chaque fois que je le fais, je me travaille pour que ça devienne plus facile. Rien à voir avec l'acquis psychologique. Je parle du nefesh. Ce qui va expliquer ici le Rambam, c'est que chaque fois que tu fais une mitzvah, eh ben, ça fait quelque chose sur la neshama. C'est-à-dire que chaque fois que je me lance dans une mitzvah, la neshama se purifie. C'est comme si je me trempe dans un mikvé. Maintenant, tu peux te tremper une fois dans un très grand mikvé, et tu peux te tremper 100 fois dans 100 petits mikvés. Lequel est le plus important, te dit Rambam? Rambam te dit celui qui se trempe dans 100 petits mikvés. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu te trempes, chaque fois que tu fais une mitzvah, tu te zirour, tu te raffines. Donc ça c'est encore plus fort, parce que là maintenant ce qu'on va toucher, on va toucher à l'aspect spirituel. On va quitter complètement l'aspect acquis, psychologique, etc. On va passer maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les sphères célestes quand je fais une mitzvah? Et là on va comprendre que dans les sphères célestes, chaque fois que je fais une mitzvah, j'appuie sur un bouton. Donc c'est évident que c'est mieux de donner en plusieurs fois, mais ça on va devoir développer. Une question d'abord, on va avancer?
Non.
C'est clair? Bon.
C'est toujours du qualitatif, ça peut pas du qualitatif.
Non, je sais que je peux pas donner plus que ça. Enfin, je sais quoi, ça c'est ma quantité. Enfin, plus que ça, je peux pas donner. Donc maintenant, on est obligé de travailler sur la qualité. C'est obligé de rentabiliser au maximum. Rentabiliser mon travail sur mon Yitzhara. Donc déjà, on a expliqué un premier point, comme a dit Marcel, il est là, d'accord, que plus de fois tu fais une mitzvah, et plus, qu'est-ce qu'on a dit, et plus il y a un acquis qui fait que la fois d'après, ça sera encore plus facile. Maintenant, on va parler de Ruchniut, spirituellement. Veine, milva, veine, milva, garam bamzal, bière, etef, tamo, venimuko. Donc vous avez veine. Voilà, le grand veine. Milvad, à part le Karam Bamzal Bier et Taftamo Venimuko, Rambam Maïmonide a déjà expliqué sa raison. C'est la raison que je viens d'expliquer. Plus de fois tu fais une chose et plus ça devient facile. Qu'aider les Zacher à Nefesh à yéder Ribouille Amassé. Qu'est-ce qu'expliquait Rambam? Que l'âme est plus raffinée, comme on va développer, plus selon le nombre de fois qu'on fait une action. Iné, Mikra Malé, Diber Akatouf, Peoulat Dzdaka, Lechaim. Alors c'est intéressant ce qu'il dit ici. Il y a un verset dans Michelet. Michelet, c'est du roi Salomon, qui dit Peoulat tzedaka, l'action de la tzedaka, l'echaim amène la vie. Et les commentaires posent une question. Ils disent mais quel rapport entre l'action et la tzedaka? Dit le don de la tzedaka. Pourquoi tu parles de l'action de tzedaka? Ce qui compte, c'est pas l'action. Je veux dire à la limite, ce qui compte, c'est pas que ta main louche. Ce qui compte, c'est que l'argent. Donc pourquoi on dit l'action de la tzedaka? Et en vérité, explique ici l'Admon Razaken, qu'en vérité, ce que la profondeur de ce que Shlomo HaMelech a dit, c'est que dans la Tzedaka, ce qui compte, c'est pas seulement l'argent que tu vas donner. Parce que dans ce cas-là, on aurait dû dire, le don de la Tzedaka amène la vie. peu importe comment fais-tu de l'âne, c'est pas nos affaires. C'est pas ça ce qu'a dit dans Michelet, le roi Salomon. Il a dit, Peoula Tzedaka, l'action de la Tzedaka, les Chaim, c'est ce qui amène la vie. Ça veut dire que c'est exactement ce qu'on a expliqué. Que c'est le fait de faire cette action le plus de fois possible, ben c'est ce qui fait à chaque fois les Chaim que ça amène la vie. Diaïnou, ça veut dire.
Celui qui fait l'action, celui qui reçoit l'action.
On va développer. Qu'est-ce qui se passe en haut? Donc, Diaïnou, ça veut dire, Shepeulata fait Segulata. Quelle est l'action et quelle est la Segula de la Tzedaka? C'est les Hamshir Chaim Elyonim, Mechaye Achaim Ensov Baruchu, Le Eretz Achaim Ishrinat Uzenu, Shale Anemar Veata Mehaye Et Kulam. Là, on va entrer un peu dans la Kabbalah, je vous préviens. Il dit comme ça. Il dit, qu'est-ce qui se passe quand je fais une mitzvah? Particulièrement, qu'est-ce qui se passe quand je donne la Tzedaka? Puisque Michelet a dit que l'action de la Tzedaka amène la vie. Alors, il dit, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il dit, c'est qui la vie? C'est qui la vraie vie? C'est Akadosh Baruch Hu, puisque nous, notre vie, on va finir par mourir. Donc, puisqu'on va finir par mourir, ça veut dire que notre vie n'est pas une vraie vie. Donc, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, dans le Zohar, on l'appelle Chaye Achaim. C'est quoi Chaye Achaim? Ça veut dire la vie de la vie. Celui qui donne la vie à la vie. À ce que nous, on appelle la vie. Alors, il dit comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand une personne donne la Tzedaka, Akadosh Baruch Hu, qui est Ensof, qui est l'infini, qui est la vie de la vie, il va alimenter de la vie à Eretz Achaim, je vais expliquer après, à la terre de la vie. C'est quoi la terre de la vie? Il dit la terre de la vie, c'est ce qu'on dit dans le Vaivarer David qu'on lit tous les matins. On dit Ve'ata Mechaye Et Kulam. D'accord? C'est qui Ve'ata Mechaye Et Kulam? Ve'ata Mechaye Et Kulam, le mot Ve'ata, c'est quoi le mot Ve'ata? Qu'est-ce qu'on a dans le mot Ve'ata? D'accord? On a le Aleph.
Quand? Hmm?
Oui, attends, oui. Mais c'est quoi Atta?
Ah, Aleph.
C'est quoi Atta? Il y a Ani, c'est moi, et Atta, c'est toi. D'accord, attendez. C'est quoi Atta?
C'est pas lui, c'est toi.
Dans le Atta, on a le Aleph, le Tav et le He. Aleph, c'est la première lettre de l'Aleph Bet. Tav,
la dernière,
et le He.
La cinquième.
Mais non. Le He, ça correspond aux cinq méthodes qu'on avait déjà fait un cours une fois sur ça pour parler. Ça, il y a les lettres gutturales, les lettres qui viennent des narines. Enfin, il y a cinq mots de sort. On appelle ça les mots de sort tapés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il explique ici, c'est qu'en vérité, tout le monde, d'accord, vient d'un niveau qu'on appelle Malchut d'Atzilut. La vitalité du monde vient dans Malchut d'Atzilut. Alors, en clair, ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire que quand moi je donne la Tzedaka, Akadosh Baruch Hu amène de la vie à ce niveau qui s'appelle Malchut d'Atzilut, qui est un niveau très très fort, très très fort dans les sphères célestes, qui est encore plus grand que le Gan Eden. Et de ça, c'est ça ce qui va, donc il y a comme une masse d'énergie, et de cette masse d'énergie, ça va être redistribué à toute la Terre. Ça veut dire que chaque fois que je donne la Tzedaka, je suis pas le seul à bénéficier de ça, j'amène de la vie au monde entier. Et ça, c'est Shlomo Meller qui le dit. Peula Tzedaka, l'action de Tzedaka, les Chaim amènent la vie pas seulement à moi, c'était la question tout à l'heure, ça amène la vie au monde entier. Alors, c'est.
On est main pour de la part.
Voilà.
À ce point, combien tu veux?
Non, mais c'est-à-dire que là, je sais pas.
C'est la Kabbalah. On va expliquer. Bah oui, c'est la Kabbalah. Je vous ai prévenu, hein. Une petite parenthèse de Kabbalah, là. Vehi, Souka, on va développer un peu après, dans les mots. Vehi, Soukat David, Anophelet ad Afar. Et ça, ça correspond à la Souka de David, qui tombe ad Afar jusqu'à la poussière. On va expliquer, on va avancer quelques lignes, hein. Kuma Amar Abotenu Zichonam Livracha, comme c'est écrit dans la Gemara, que Galou le Edom, Shrina imaem. Et quand on est exilé à Edom, la Shrina est avec nous. Qui beitaruta diltata la chayot ruach shefalim. Ok, ça je m'arrête ici. Alors, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il veut dire ici. Là maintenant, en vérité, son but ici, mais en vérité, c'était pas le but de la lettre, parce que la lettre, elle était assez longue. Et ça, ce que je viens de vous dire ici, il va le dire en trois lignes. Mais il le dit quand même. Pourquoi? Pour les initiés, mais il le dit quand même. Parce qu'il te dit, sache que quand tu fais une mitzvah, il y a pas seulement ce qui se passe ici-bas. Nous, on croit que quand je fais une mitzvah, je me suis battu avec mon Yitzhara, et j'ai gagné, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu un combat en moi, et tout s'est passé ici.
Non, on a vu ça.
D'accord? Attends, deux secondes. C'est-à-dire que nous, on croit, qu'en vérité, le combat principal. Oui, non, mais ça, c'est autre chose que je dis là. Encore autre chose. Lui, il te dit, nous, on croit que quand on fait un combat avec notre, quand on fait une mitzvah, c'est un combat personnel qu'on a avec notre Yitzhara, que ça concerne que nous, et que éventuellement, quand mon Neshama arrivera en haut, Dieu me récompensera pour ça. Mais je me dis que la mitzvah que je viens de faire ici n'a pas spécialement d'impact sur le reste du monde. Il y a rien à voir. c'est ce que je sens quand je fais un combat avec mon Yetzara pour donner la tzedaka. Est-ce que je sens que j'ai fait quelque chose dans le monde? Non. Je sens que c'est un combat personnel qui me concerne que moi, qui concerne ni ma femme, ni mon père, ni ma mère, ni mes enfants. Ça me concerne qu'à moi. D'ailleurs, c'est comme ça que je le ressens. D'accord? Qu'est-ce qui t'explique? Ce qui t'explique, c'est qu'en vérité, quand tu fais une mitzvah, il y a un impact de cette mitzvah dans le monde entier. Nous, on ressent pas cet impact, mais il y a un impact. Chaque mitzvah a un impact. Si je pourrais donner un exemple, par exemple, on a dit tout à l'heure que les téphilines, ça amène la soumission. Donc moi, quand je mets les téphilines, je me dis, ça m'amène la soumission à moi. Faux. Le Zohar te dit, mettre les téphilines, ça amène la soumission dans le monde. Pas que pour moi.
La soumission, par exemple, d'un
peuple à un roi, des enfants aux parents. La soumission, le concept de la soumission. On vit dans un monde aujourd'hui dans lequel plus on avance et plus on a du mal à avoir de la soumission. Les enfants ont du mal à avoir de la soumission aux parents, d'accord? Les élèves aux professeurs, etc. D'accord? Les employés aux patrons, on a du mal à avoir de la soumission. Eh ben, te dis le Zohar, chaque fois que tu fais une mitzvah, chaque fois que tu mets les téphilines, c'est pas que sur toi que tu amènes la soumission. Tu amènes la soumission dans le monde entier. Ça veut dire qu'une mitzvah n'a pas un impact seulement local. Même si moi je le ressens comme ça, que c'est un combat personnel et que ça concerne personne d'autre. Non. Ça concerne tout le monde. Donc là, il nous donne une petite parenthèse. Il nous dit, sache que quand tu fais ta mitzvah de tzedaka, même si pour toi, tu dis, je comptais donner 1 000 euros, j'ai donné 1 000 euros. Qu'est-ce que ça change si je l'ai donné en 10 fois ou en 1 fois? Ça change rien. Il te dit, d'abord, première chose qu'on t'a expliqué techniquement, c'est que chaque fois que tu mets la main à la poche, il y a un acquis. Mais ça, c'est technique. Je vais donner quelque chose encore plus fort que ça. C'est que pour Akadosh Baruch Hu, chaque fois que tu fais la mitzvah, chaque fois qu'on a 10 mitzvot ici, et ben chaque fois que tu fais le mitzvah pour Akadosh Baruch Hu, c'est comme si tu as recommencé l'acte encore une fois à zéro. Alors, le Zohar explique comme ça.
C'est normal parce que...
Attends, j'explique, juste 2 secondes.
Quand il a fait une fois, il est obligé de le faire 2 fois.
Alors, je vais t'expliquer ce que dit le Zohar. Parce que ça, là, je me base sur un commentaire du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, il dit qu'en vérité, c'est exponentiel.
Donc tu peux dire que la mitzvah, c'est...
Je vais donner un exemple, regardez.
Non, mais il parle de tous les mitzvahs.
Je vais expliquer ce qu'il veut dire ici.
C'est comme si c'était à zéro.
Bah oui.
Mais non, tu peux dire non.
Alors, je vais t'expliquer. Écoute, je vais expliquer. Parce qu'il y a un très joli commentaire du Tzemar Tzedek sur ça. Il dit comme ça. Il dit, imagine-toi qu'une personne a décidé de donner 1000 euros. Il a donné aujourd'hui 100 euros. Demain, encore 100 euros. Enfin, dans un mois, encore 100 euros. Dans 2 mois, encore 100 euros. Pour nous, à la fin de l'année, il a donné 1000 euros. Akadosh Baruch Hu calcule pas comme ça. Écoutez bien. Akadosh Baruch Hu dit, t'as donné 100 euros aujourd'hui? Mazal Tov. Demain, il va donner encore 100 euros. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est comme si que demain, il a donné 200 euros. Donc, ça veut dire qu'il y a 300. Écoutez bien. D'accord? Le surlendemain, tu vas donner encore 100.
C'est qui a dit ça?
D'accord, donc ça fait 300. 300 plus, combien on était tout à l'heure?
600, d'accord.
Donc ça fait 600. D'accord? Donc, et il te dit comme ça, il te dit qu'en vérité, on peut associer toutes les tzedakot du monde avec ça. Mais ça, c'est quelque chose que nous, on perçoit pas ici-bas. Ça, c'est peulat tzedaka lechaim. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, Akadosh Baruch Hu dit, ah oui, mais attends, mais il a déjà fait ça et ça. Alors vas-y, compte tout, mets tout dans le paquet. Et chaque fois que tu fais une mitzvah, la mitzvah est grosse alors qu'en vérité, l'acte était tout petit. Ça veut dire que l'impact d'une mitzvah n'est pas forcément lié à la grandeur que moi je crois qu'avait la mitzvah. Concrètement, ça veut dire quoi? Le Zohar, il développe cette idée-là. Donc ça, c'est ramené dans le Tzemar Tzedek. Il dit c'est la même chose dans les mitzvot. Par exemple, tu as un juif aujourd'hui, il va faire une petite mitzvah. Il n'est pas religieux, rien du tout, il va mettre les tefillines. Puis il a un petit truc, c'est rien. Sauf que si tu vas associer cette mitzvah de tefillines à la masse des mitzvot de tefillines qui ont été accomplies par le Ham Israël, cette mitzvah a un pouvoir énorme. Parce que si tu l'associes à toutes les mitzvot de tefillin qui ont été faites pour l'âme Israël, depuis le début du temps, donc une mitzvah peut avoir un impact énorme. Et avec ça, il explique comment la Gemara dit qu'avec une mitzvah, on peut faire balancer le monde. Une mitzvah. Non, c'est pas seulement la goutte d'eau.
Non,
c'est pas
le compte.
Parce qu'en vérité, chaque fois que tu fais une mitzvah, Akadosh Baruch Hu, il prend en compte le cumul. Et donc, du coup, la mitzvah a plus de force.
Pas sûrement pour les avérats, non?
La goutte d'eau qui pèse dans les avérats, c'est la marque
que j'ai. Pas comme ça pour les avérats. Heureusement.
D'accord. Ça veut dire,
pour les avérotes, c'est parce que tu pas comme ça, les
mains dans la balance. Il y a beaucoup d'avérotes aussi, malheureusement. Ouais, il y a beaucoup d'avérotes.
Oui, mais s'ils calculent comme ça aussi, c'est.
Non, l'avérote, ça se cumule pas.
Tu peux faire une grosse, qui est heureusement.
Hein? Oui, ça éclate. Le plus dur, c'est de démarrer la machine. D'accord? Le plus dur, c'est de démarrer la machine. C'est comme dans une voiture. Ça veut dire, au début, elle pèse 100 kilos. Bon, tu l'as fait démarrer. Après, tu l'arrêtes. Après, tu la redémarres encore. Et là, elle pèse 200 kilos. Il faut tout recommencer. Après, elle pèse 300 kilos. Faut la redémarrer. Alors que quand dès le départ, t'avais 1000 kilos et t'as 1000 paquets, tu l'avais fait avancer, bon, c'était une action. quand à chaque fois tu t'arrêtes et tu recommences, et ben à chaque fois pour Akadosh Baruch Hu, c'est factoriel. C'est à chaque fois Akadosh Baruch Hu, il compte. Donc ça fait, c'est énorme. Donc là quand on touche à l'aspect spirituel de la mitzvah, on découvre qu'en vérité le fait de faire une mitzvah en plusieurs fois, mais la mitzvah a beaucoup plus de puissance. Mis à part le fait que ça travaille son yetzer hara, la mitzvah a beaucoup plus de puissance. C'est ce qu'elle expliquait ici. Il dit chaque fois qu'une personne fait la tzedaka, il amène la vie. Et chaque fois, c'est factoriel. Ça augmente. Et donc, c'est pour ça que j'ai tout intérêt à le donner en plus de fois possible, parce qu'à chaque fois que je recommence la mitzvah, et ben, chaque fois, la mitzvah, comme on a expliqué, est augmentée, et chaque fois, elle est multipliée. D'accord? Ce qu'il dit ici. Et donc, il dit, pas seulement ça. Il dit, maintenant, il y a aussi un autre facteur très important qu'il va expliquer ici. Donc déjà, on a expliqué un premier facteur, c'est que quand je fais une mitzvah, il y a un impact général qui se fait dans le monde. Ça, c'est un acquis. Ça veut dire que, comme Tzadikim, il dit souvent, il dit, si le monde n'a pas assez de soumission, ça veut dire qu'Israël n'a pas assez de soumission dans la mitzvot. C'est quoi? Parce qu'on est persuadé qu'un Ahmadinejad, il dépend directement de nos actions. Que si le Ham Israël était plus soumis à Kadosh Baruch Hu, Ahmadinejad n'aurait pas de raison d'exister. Ça veut dire que ma petite soumission à moi de faire une mitzvah a un impact mondial. D'accord? Sur le monde entier. Ça, c'est clair. Il y a un deuxième point qu'il va dire. Ça, c'est encore plus fort. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais une mitzvah. D'accord? Il y avait un pauvre ici. Et ce pauvre, j'aurais pu avoir pitié comme j'aurais pu ne pas avoir pitié. Vous savez, des fois, des gens qui passent, t'as pas pitié. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'avoir pitié. Donc, j'ai montré à Kadosh Baruch que j'ai pitié d'un pauvre. D'accord? Maintenant, envers Kadosh Baruch, c'est qui les pauvres? Quand Kadosh Baruch Hu, il pense à ses enfants mesquines, à qui il pense? Il pense à nous. Donc, c'est quoi le message caché qu'on envoie à Kadosh Baruch Hu? On lui dit, regarde, moi j'ai pensé aux pauvres. Pourquoi toi tu penses pas à nous, les pauvres? Ça veut dire que des fois, une mitzvah peut avoir aussi cet impact-là. Que Kadosh Baruch Hu est obligé de jouer le même jeu. Pourquoi? Parce que, ça c'est le Midrash qui dit, il dit Kadosh Baruch Hu est obligé de faire les mêmes mitzvot que nous. Parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un quelque chose que tu ne fais pas. Donc, dit le Midrash, Mashéhu Oseh Omer l'Israël l'Asot. Qu'Akadosh Baruch Hu, finalement, ce qu'il nous demande de faire, c'est ce que lui, il fait aussi, parce que sinon, tu fais pas.
Donc, quand tu d'accord fais...
Sinon, quand tu dis, faites ce que je dis, et faites pas ce que je fais, ça tient pas.
Donc. On crée la réciproque?
Eh, bien sûr. Bah oui. C'est donc, ça ce qu'il t'apprend ici. Quand tu fais une... Ça veut dire que là, c'est pas seulement, je termine. Ça veut dire que c'est pas seulement que tu as un impact. Que tu as un impact, on l'a dit, mondial, parce que à chaque fois c'est factoriel et ça s'augmente, c'est encore plus que ça. C'est qu'Akadosh Baruch Hu est obligé de jouer le même jeu que toi. Et plus tu montres que tu as pitié, et plus Akadosh Baruch Hu va montrer qu'il doit avoir pitié de toi. Ça c'est pour la tzedaka. Parce que c'est quoi c'est quoi la base de la mitzvah de tzedaka? La tzedaka, sa base c'est la pitié. C'est que j'ai pitié de la personne. Plus j'ai pitié, plus je donne. Dans les autres mitzvot, c'est d'autres facteurs. On a dit les tefillin, c'est la soumission. La mezouza, on a dit c'est le bitachon à Kadosh Baruch Hu qui garde la maison. Chaque mitzvah, le Shabbat aussi c'est le bitachon. Oui, Shabbat c'est bitachon à Kadosh Baruch Hu. Et donc chaque fois par exemple, je vous donne un exemple. Moi je demande à Dieu, je dis fais-moi confiance. D'accord?
Et kashrout.
Quel est le sens de kashrout? C'est la pureté de l'âme. D'accord? Je vous donne un exemple. Un exemple concret. Oui, c'est la pureté de l'âme. Je vous donne un exemple concret. Moi, par exemple, je demande à Kadosh Baruch Hu, imaginez un fils qui dit à son père, il dit, papa, fais-moi confiance. Son père, il lui fait pas confiance. D'accord? Parce que bon, il dit, ça suffit, t'as fait trop de bêtises, je fais pas confiance. Qu'est-ce qu'il fait, le fils? D'accord? Le fils, il va faire un acte dans lequel il va montrer à son père que lui, il a fait confiance à son père. Et qu'est-ce qu'il va attendre de son père? Il va dire, regarde, papa, moi, je t'ai fait confiance. Toi aussi, fais-moi confiance. Ben, c'est ça. Quand je fais une mitzvah comme le Shabbat. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je montre à Kadosh Baruch Hu, je dis écoute à Kadosh Baruch Hu, logiquement parlant, ce samedi il fallait ouvrir. Mais... D'accord?
C'est la veille de Noël.
J'allais prendre deux vies.
Écoute, la vérité, voilà. Mais je te fais confiance. Mais je te fais confiance. Je t'ai fait confiance à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'est obligé de faire à Kadosh Baruch Hu de l'autre côté? Quel est le message caché comme à Kadosh Baruch Hu? D'accord? Non, c'est même pas, non, on parle même pas d'argent ici. On parle même pas d'argent, on parle même pas de factoriel. On parle qu'à Kadosh Baruch Hu, t'es obligé de jouer le même jeu que toi. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, voilà, moi je t'ai fait confiance. Toi aussi fais-moi confiance. Ça veut dire quoi, toi aussi fais-moi confiance? C'est-à-dire, des fois, Kadosh Baruch Hu peut décider, il peut dire, allez, essaye, il y en a marre, basta celui-là, combien il va nous rendre fou, allez, essaye, ça suffit, on lui envoie ça sur la tête. D'accord? Je dis, non, je te promets, Kadosh Baruch Hu, je te promets, je vais m'arrêter. Je dis, écoute, Kadosh Baruch Hu, moi je t'ai fait confiance, toi aussi fais-moi confiance. Donc, il y a des messages cachés qu'il y a dans les mitzvot. Et ça, on l'a dans la tzedaka aussi. Parce que, c'est quoi le message de la tzedaka? Le message de la tzedaka, c'est la pitié. Je montre que j'ai pitié sur quelqu'un. J'aurais pu ne pas avoir pitié, j'aurais pu vivre ma vie, j'en ai rien à faire parce qu'il se passe chez l'autre. Il a qu'à se débrouiller. Et moi, j'ai montré que j'en ai eu à faire, j'ai écouté ce qu'il avait à dire. Vous savez ce que dit Rambam? Rambam, il dit que même écouter ce que quelqu'un a te raconté, c'est déjà une tzedaka. du style, ta femme elle veut parler, t'as pas la force d'écouter, d'accord? Et tu d'accord? Hein, du style, t'as pas la force de l'écouter, tu l'écoutes. T'as fait une mitzvah? Tzedaka. Parce que c'est quoi tzedaka? Tzedaka c'est pas de l'argent, tzedaka c'est de l'attention. Le pauvre, ce qu'il attend de toi, hein, c'est pas spécialement de l'argent, il attend ton attention. Ton attention, ça peut être de l'argent, ça peut être un sourire comme dans le métro, un sourire, un ticket restaurant, ou un...
D'accord. Une personne âgée qui veut parler et qu'on écoute, c'est...
Non, mais c'est pas des blagues, ne crois pas. Quand tu es dans le métro, quand tu fais un sourire, ça lui fait plaisir. Parce que, imagine-toi qu'il voit des milliers de personnes dans la journée, que personne ne lui fait un sourire. Tu le considères, tu dis, écoute, désolé, je peux pas t'aider, j'ai pas sur moi, mais sourire. C'est déjà ça. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, c'est quoi le pchat de la tzedaka? Qu'est-ce que je fais quand je donne la tzedaka?
Le métro,
il l'envoie ici.
Qu'est-ce que je fais quand je donne la tzedaka? Quand je donne la tzedaka, je montre que les achayot roar shefalim, que je fais mon possible, comme il dit ici, pour faire revivre un esprit d'une personne qui a été rabaissée. Un pauvre, c'est une personne qui est rabaissée. Il est rabaissé parce qu'il n'a pas d'argent, parce qu'il lui manque quelque chose. Alors, il peut être pauvre en argent, mais il peut être pauvre en d'autres choses. Il peut être pauvre, par exemple,
en amour.
En amour. Et quand je lui donne ce qu'il a besoin, quand je le fais revivre, donc je montre à Kadosh Baruch Hu que j'ai pris de mon temps pour accorder à quelqu'un, pour donner à quelqu'un quelque chose qu'il avait besoin, bien que moi, je ne vais pas forcément gagner quelque chose en retour. Je vais perdre de mon temps pour ça. Et je montre à Kadosh Baruch Hu, pour quelqu'un d'autre, je suis prêt à perdre de mon temps. Donc, je dis à Kadosh Baruch Hu, on va lire dans les mots ce que j'ai dit ici maintenant. Alors, qui? Beitaruta Diltata. Voilà, j'ai simplifié un peu. Maintenant, on va passer dans les termes du Zohar. Alors, qui? Beitaruta Diltata. Avec le réveil d'en bas, l'Achayod Ruar Shefalim. Ça veut dire, quand l'homme en bas a montré l'exemple, l'Achayod Ruar Shefalim, qu'il a fait revivre l'esprit d'une personne qui était rabaissée. Donc, ça veut dire qu'il a fait revivre un pauvre. Par un sourire, par une tzedaka, par une bonne parole. D'accord? Delet le migarmekloum. Que ces gens-là, c'est des gens qui n'ont rien qui leur appartient. C'est quoi un pauvre? Un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a rien qui lui appartient. Tout ce qu'il a, ça vient des autres. Imaginez le sentiment que tu as. Moi, tu rentres à la maison, t'as des meubles, t'as des objets qui t'appartiennent. Un pauvre, un vrai pauvre selon la Torah, c'est quelqu'un qui n'a pas d'objet qui lui appartient. C'est-à-dire que même son pain, il lui appartient pas. Donc c'est une personne qui est malheureuse comme tout. Que tu peux lui donner de l'argent, mais c'est pas l'argent qui lui donne le bonheur. Parce que il est malheureux parce qu'il dit même cet argent, ça m'appartient pas. Il y a rien qui m'appartient. Ma vie ne m'appartient pas. J'appartiens aux autres. Je dépends du bon vouloir des autres. Et quand tu lui montres à ce pauvre, ça c'est ce qu'il dit Rambam, il dit quand tu lui montres à ce pauvre là, tu lui dis écoute, peut-être toi t'as pas de l'argent à me donner, mais t'as peut-être des conseils à me donner. Bien peut-être tu vas discuter avec lui parce qu'il a peut-être vu des choses, peut-être juste tu lui fais croire que t'as envie d'écouter ce qu'il a à te dire. Ça veut dire qu'il va se sentir pas seulement récepteur, il va se sentir aussi émetteur. Et ben ça s'appelle dit Rambam la chayot roar shefalim. Ben il dit on vit exactement le même phénomène avec Akadosh Baruch Hu. Avec Akadosh Baruch Hu, d'accord, on dit Akadosh Baruch Hu, t'arrêtes pas de nous donner. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est que Akadosh Baruch Hu, tu te tournes vers nous et tu nous laisses être un petit peu émetteur. Ça veut dire, laisse-nous te montrer ce qu'on est capable de faire. Arrête de nous donner. Pas dans le sens arrête de nous donner ce qu'on a besoin. Dans le sens, laisse-nous nous développer. Laisse-nous te montrer ce qu'on est capable de faire. C'est comme un père qui n'arrête pas de s'occuper de son fils, il lui donne tout, il lui fait les devoirs, il lui fait tout. Son fils dit, papa. Laisse-moi m'exprimer, laisse-moi te montrer ce que je suis capable de faire. Fais-moi confiance, juste une fois. Eh ben, c'est le même dialogue qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Akadosh Baruch Hu, on lui demande de nous faire confiance de la même manière que nous, on a pris de notre temps, on a fait confiance et on a donné de l'argent à un pauvre. De l'aikle migarmekloum, itaruta dil ela, ça c'est le réveil d'en haut. Donc, ça c'est, bon, ceux qui, les adeptes du cours de Tania depuis longtemps le savent, que une des bases du Zohar, c'est que le réveil d'en bas est calqué sur le réveil d'en haut. Ça veut dire que le réveil d'en bas c'est mon action, le réveil d'en haut c'est l'action d'Akadosh Baruch Hu. Et les deux sont calqués l'un sur l'autre. La question est qui commence en premier? Est-ce que c'est Dieu qui envoie le premier appel et moi je réponds? Ou est-ce que c'est moi qui envoie le premier appel et Dieu y répond? Ça dépend des fois. D'accord? Des fois, c'est par exemple, quand on est en Rosh Hashanah Yom Kippour, on est en quel mode, d'après vous? Qui c'est qui lance le premier appel? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous appelle vers lui, et nous, on remonte vers lui. Mais dans toute l'année, en général, c'est le contraire. C'est nous qui montons vers Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu est obligé de jouer le même jeu.
Ça se peut que de temps en temps, il nous réveille quand même.
Ça se peut que?
De temps en temps, il nous,
c'est oui, lui bien qui sûr, nous fait appel. Oui, bien sûr. Ou bifrat, surtout, particulièrement. Beit Nadev Am Leachayot Yoshve Eretzachai Mamash. Alors maintenant, on avait expliqué la semaine dernière que donner la tzedaka pour Eretz Israël, c'est très important. Plus important que vous donner la tzedaka pour quelque chose en France. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi donner...
La raison de...
Je répète la question. On a dit que donner la tzedaka pour
au même niveau.
Voilà, c'est toujours au même tiers. Donner la tzedaka. Par exemple, si j'ai le choix entre donner la tzedaka à une yeshiva à Paris et une yeshiva à Lyon, laquelle est prioritaire?
Paris.
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 D'accord. Si j'habite Paris, bien sûr. La yeshiva de Paris. Si maintenant j'ai le choix entre donner à une yeshiva de Paris ou donner à une yeshiva en Israël, laquelle est prioritaire?
Israël.
Les deux sont au même niveau. Pourquoi? Pourquoi Eretz Israël est prioritaire? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Eretz Israël? Ça, je crois qu'on n'explique pas.
T'as répondu les deux, là.
Donc, ça veut dire qu'ils sont au même niveau. Mais ça veut dire qu'Israël passe avant Lyon.
Ah, d'accord.
Bien que géographiquement, Israël est plus loin de Lyon. Ouais. Ah, pourquoi Israël passe avant?
Je sais pas, c'est le but ultime.
Tu l'as dit.
Que ça change. Un juif qui habite en France, c'est pas le même juif qui habite en Israël. Que ça change. La Torah qui étudie en Israël, c'est pas la même Torah qui étudie en France.
Ça va. Hmm? Bah, la mise va.
Sûr que non, c'est
bah, par rapport
quoi
à ce que tu as dit.
Comme un Vodazara.
Ah, non, doucement.
C'est par rapport à ce que tu as dit, on peut répondre comme ça.
Oublions, imaginons que c'est pas une yeshiva, imaginons que c'est un pauvre.
C'est par rapport à ce que tu as dit.
Une mitzvah appliquée en France, une mitzvah appliquée la même mitzvah appliquée en Israël, ça n'a pas
de sens. Non, non. J'ai le choix entre donner à un pauvre lyonnais ou un pauvre israélien.
Mais par rapport à ce qu'on a dit, là.
On te dit, non, bon, juste bien sûr, on a dit que l'israélien passe avant.
Oui, non,
pourquoi
mais par rapport à ce qu'on a dit, puisque non, les mitzvot, comment ça s'accumule, oui. Là-bas, c'est plus grand.
Pourquoi?
C'est Akash Baruch qui a dit.
Mais pourquoi? Il explique pourquoi.
Il est sordu, là.
Il dit parce que. Il dit parce que. Non, c'est très simple. Il va expliquer, c'est très simple. Il dit parce que Eretz Israël est appelé Eretz Achaim. Eretz Israël est appelé le pays de la vie. Or, le but de la Tzedaka, on a dit, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais quand je donne la Tzedaka? Je donne de la vie à quelqu'un. Donc, comme je donne de la vie à quelqu'un, Dieu doit me rendre de la vie. Maintenant, tu comprends que si tu as donné de la vie à quelqu'un qui se trouve dans la terre de la vie, un juif, c'est quelqu'un qui est vivant. Parce qu'il reste vivant à vie. Même quand son corps meurt, sa neshama reste en vie. D'accord? On est d'accord. Un juif, c'est quelqu'un de vivant. Un juif qui donne à un juif. Ça veut dire un vivant qui donne à un vivant. Dans la terre de la vie, là, Kadosh Baruch Hu est obligé de répliquer.
Alors, pourquoi ça devrait être Israël qui est au-dessus?
Tu as raison. C'est une bonne question. Seulement, le problème, c'est que les Chachami ont fait ça parce que sinon, on donnerait qu'en Israël. Donc, on est obligé de penser aux gens locaux. Mais normalement. Normalement, on aurait dû donner d'abord en Israël. Mais les Chachamim n'ont pas fait cette akana parce qu'ils ont dit sinon après on va oublier les gens locaux. Et ça on peut pas. Mais pour te dire, ça veut dire que à quel point on va? On va ici à un point que pourquoi Eretz Israël ça passe avant? T'as la réponse à ta question maintenant? Parce que Eretz Israël c'est Eretz à Chaim. La terre de la vie. C'est pour ça que les gens ils veulent être enterrés en Israël. Ce matin il y en a un qui m'a dit une fois il était en enterrement en Israël et il y en a un qui leur a dit arrêtez de nous envoyer vos morts, envoyez-nous vos vivants.
Les retraités,
mais bon. Bon. Donc il dit, les mébines. Est-ce que c'est clair qu'on a expliqué ici? On a expliqué plusieurs points. Je voudrais juste que ce soit bien clair. D'accord? Donc je rappelle.
C'est pas Vechol Maskil.
Vedaï les mébines. Après, c'est Vechol Maskil.
Ah, d'accord.
Vedaï les mébines. C'est racheté votre. Donc je reprends. Donc dans notre dilemme qu'on a, monsieur David, qu'est-ce qu'on fait? On donne en plusieurs fois ou en une fois?
A priori, en plusieurs fois.
En plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on gagne de ça? Plusieurs points. Plusieurs points.
Ah non, ça dépend des cas, comme tu as expliqué pour le Gmar.
Ça dépend des cas. Si l'argent on a besoin tout de suite, on sait qu'il va être utilisé tout de suite.
C'est la cas que tu donnes toute l'année, donc c'est une fois parmi.
J'ai compris, mais ça dépend. Tu as raison.
Je peux dire le Gmar, je le donnerai en plusieurs fois.
Ça dépend.
Avec des priorités.
Ça et à chaque fois.
Moi, je pense que j'ai compris.
La
hein.
Que tu plus
non. J'ai compris, mais il a raison. Si c'est pour une cause, si j'ai l'argent, n'oubliez pas qu'on parle du cas dans lequel j'ai l'argent. Enfin, je peux me débrouiller l'argent. Je veux donner tout d'un coup. Si je sais que c'est pour une cause, David, qui ont besoin, on a dit,
tout de suite,
dans ce cas-là, je donne tout. Maintenant, si je sais que, a priori, il y a un fond de roulement et que ça peut se donner en plusieurs fois, il va rien se passer. Donc là, on a dit qu'a priori, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner en plusieurs fois. Pourquoi? On a développé plusieurs arguments. C'est quoi les arguments qu'on a développés? Qui se rappelle? Alors, on va les reprendre un par un.
Juste, Mendy.
Vas-y.
Donc, on pourrait pas le faire un mois avant pour motiver plus de personnes à donner.
Un mois avant, on donnerait pas.
Voilà, on est trois semaines avant, là.
Non, mais le mois civil.
Un mois.
Ah, un mois civil. Faut demander au.
Non. Enfin, tu dis, ouais.
Tu sais, en général, les gens, ils pensent à Pessah après Pourim. C'est comme le ménage de Pessah,
oui, c'est
l'endroit.
Trop tôt, c'est chaud.
Non, mais juste avant pour.
Tout de suite.
Non, après Pourim, ils sont dans la joie.
Je pense que c'est un bon timing. À mon avis, c'est un bon timing.
Parce qu'après Pourim, j'ai
avant Pourim, tu leur parles de Pessah, ça les angoisse.
Ah, d'accord, ouais.
Ils pensent au ménage, ils pensent
aux courses.
D'accord? On va reprendre les arguments un par un. Pourquoi c'est mieux de donner en plusieurs fois? Allez, qui se rappelle? On y va.
Une claque.
D'accord? Razak, d'accord. Donc numéro 1, on a dit c'est quoi? C'est une claque au Yetzara à chaque fois. Donc en hébreu, comment appelait ça le Rambam? Il a appelé ça Kinyan ben Nefesh. Retenez ce terme. Chaque fois que je fais une mitzvah, je fais un Kinyan dans l'âme, ça veut dire que c'est un acquis. Chaque fois que tu fais, c'est un acquis supplémentaire. Même si la somme restera la même, au fond du compte, chaque fois c'est un acquis supplémentaire, c'est un combat qui a été gagné. C'était numéro 1. Ensuite, Rambam a développé un deuxième point. Zichur. C'est quoi Zichur? Purification de la Neshama. Ça, c'est un truc dans lequel on ressent rien du tout. Je le sais pas, je le ressens pas.
C'est pas perceptible.
C'est pas perceptible, mais ma Neshama, chaque fois que je fais une mitzvah, ma Neshama est purifiée. Ça, c'est un deuxième point. Troisième point qu'on a expliqué, l'aspect factoriel.
Ça s'additionne.
D'accord? C'est que ça s'additionne. Mais pas seulement ça s'additionne dans le sens que 100 plus 1, 100 plus 100 est égal à 200. Non. 100 plus les 100 que j'ai donné le matin, ça fait 200, donc ça fait 300 en tout.
Ouais.
D'accord? Eh oui, ça va être très très loin. Maintenant, excuse-moi David, imagine-toi maintenant, si tu associes ça à toutes les mitzvot que tu as fait depuis ta naissance, et on est tous des gilgoulim, donc si tu associes ça à toutes les mitzvot que tu as fait depuis le début de ton gilgoul.
Ouais, mais imaginons que d'accord, mais j'ai pas donné Israël.
T'es un millionnaire, t'es un milliardaire. T'as donné des milliards à la Tzedaka.
Et j'ai oublié Israël.
T'es jamais parti en Israël?
Hmm?
Bien sûr, mais.
Quand tu vas là-bas, tu n'aimes pas Tzedaka?
Attends, on n'a pas parlé d'Israël encore.
Attends, mais là, on parle de tout donner en Israël.
Donc, ça, c'est le troisième point qu'on a expliqué. Donc, on a dit, numéro 1, on a dit les acquis. Numéro 2, on a dit purification de l'âme. Numéro 3, qu'est-ce qu'on a dit? L'aspect factoriel. Que Pachout, la Tzedaka, elle a plus de poids. Elle a un poids énorme. Ta Tzedaka, je sais pas comment on pourrait calculer ça. Est-ce que quelqu'un peut calculer? Je sais pas quelle est la formule pour calculer ça.
Pour calculer.
Si quelqu'un, il a donné 1000, et l'autre, il a donné 100 par 100. Avec le calcul qu'on a donné, il arrive à combien?
Il arrive
à
100. Ah,
10 puissance 10.
100 plus 200 plus 300.
100 plus 110.
300. C'est ça peut-être. 100. 10 puissance 10, non?
1200.
Bah, ah, c'est pas plus. C'est déroulé.
Hein, c'est au carré?
C'est au carré plus ça.
Ah, vas-y, donne-nous le calcul. Là.
10 au carré.
Comment on s'est fait rouler là?
5 fois?
Non. 10 fois.
100 égale à 300.
Mais attention, c'est-à-dire chaque fois. Attends, il y a un problème. Chaque fois, il faut compter. Je sais pas si c'est au carré. Par exemple.
C'est 100 au carré plus 1.
Et moi, je vais lui dire, attendez. Je vais lui donner 10
pièces. Attention.
1, 2, 3, 6, 8, 9, 10.
C'est pas au carré. Parce que, regardez, quand je donne 100.
Au cube, au cube.
D'accord? Quand je donne.
Non, pas au cube.
Au cube.
Pas au cube.
Ça s'appelle?
Au cube. Suite
arithmétique. Ça veut dire, non, je donne 100. Après, quand je rajoute 100. Ça va compter 300, puisqu'il y a les deux, puisque 100 plus 100, ça fait 200, plus les 100 que je donnais maintenant. C'est-à-dire qu'on met les deux en même temps.
12,
il va pas dormir, Marcel.
Il y a une arnaque. Marcel, tu me donnes le résultat demain, Marcel.
Il va pas dormir, Marcel.
96. Ça fait combien? 5500. 5500,
c'est pas mal. Non, ça fait 3500.
Ça fait 3540.
Bon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il a.
Au pire, 7000, ouais.
Ah oui, il y a une différence. 3500, au pire, 7000.
Non, 3500, ça fait 7000, d'après, j'ai pas compté du
poids. Ah oui, d'accord, c'est énorme.
Ouais.
D'accord, ça veut dire que Pachouk, le poids de Matsedaka est énorme. Ça, c'est un troisième point qu'on a expliqué, donc l'aspect factoriel.
En fait, celui qui donne 1 euro par jour, il donne plus.
C'est énorme. Ce qui donne exactement.
C'est spirituel, c'est respirituel, c'est énorme. Ça. Hein, c'est pas, ça se concrétise pas quand même. Au bout du compte,
parce qu'il donne 1 euro par jour. Il donne
non, je parle de l'impact de la mitzvah. L'impact de la mitzvah. Ensuite, on va rester concentrés. Allez, messieurs. Comme ça, on reste concentrés sur les points. Après, les questions, si vous voulez. Donc, on a dit, ça, c'était le troisième point. C'est l'aspect factoriel. Quatrième point, on a expliqué, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, quand moi je donne la tzedaka, Akadosh Baruch Hu de son côté, lui aussi, il joue le même jeu que moi. Ça veut dire, moi quand j'ai donné la tzedaka, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait revivre un pauvre. C'est ça le concept de la tzedaka. C'est pas forcément de l'argent. Le concept de la tzedaka, c'est de faire revivre quelqu'un en lui donnant ce qui lui manque. En lui donnant de l'argent, du temps, de l'amour. Je lui donne ce qu'il a besoin, je lui donne ce qui lui manque. D'accord? C'est pour ça que dit Ramban a tranché, que la mitzvah de tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça commence par sa femme. Parce qu'elle a besoin de notre temps. Elle a besoin de notre attention. Quand tu lui donnes de l'attention, bah, tu fais la mitzvah.
Mais toujours quand j'ai pas le temps, là.
Ah, mais ça veut dire, non, mais c'est vrai. Ça veut dire, imagine-toi, quand tu dis tu donnes du temps pour ta femme, c'est une mitzvah. Tu mets les tefillines, c'est une mitzvah.
Tous les lundis, à 8h25, du coup, je les enfants. Tous les lundis, je dis, mais tu me demandes tous les lundis. J'ai pas le temps tous les lundis à 8h25. Du coup.
Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Quand elle demande.
Mais tu fais exprès ou quoi?
Je vais t'expliquer quelque chose. D'accord? Quand ta femme te demande à 8h25 de coucher les enfants.
Tous les lundis, hein.
Écoute bien. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Je vais t'expliquer ce qui se passe dans sa tête. Elle sait très bien. Pas du tout. Elle sait très bien que tu vas y aller de toutes les façons.
Elle sait.
Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Pas que tu lui dises, je couche les enfants. Tu lui dises, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Ils vont être gentils.
Oui, mais alors là. Là, tu reçois.
Pas du tout. Pas du tout. Mais gentil, mais avec les bons mots. D'accord. Ou bien lui dire, ou bien tu vas lui dire, écoute, tu as une partie dans le mérite du cours que dans lequel je vais y aller. Et j'apprécie beaucoup le fait que tu vas mettre au lit les enfants. Elle veut de l'amour, c'est tout ce qu'elle veut.
Alors, par exemple, je suis un peu plus sexy que ça quand même.
Tu disais, tu donnes 1 euro
j'ai
par jour.
J'ai pas le temps.
Oui.
1 euro tous les jours, ça fait 66 795 euros. C'est top, non ?
En un an ?
En un an.
Elle est belle.
Tu rentres au Shabbat ? Bien
sûr. Au lieu de 365 euros, ça fait 63.
Si, Shabbat, tu peux donner en donnant avant l'entrée de Shabbat. Les femmes, elles ont avant les nuages de bougies.
Ah, mais dans ces cas-là, ça fait pas le même calcul.
D'accord, ça fait 128 000. Allez. Quelqu'un a de la monnaie ?
C'est pas mal, hein. Donc on a dit, on a déjà développé 3 points. Le troisième point, c'est l'aspect factoriel. Le quatrième point, on a dit, c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu va jouer de l'autre côté la même chose que nous. Donc si moi, quand je donne la tzedaka, j'ai fait revivre quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, va devoir faire revivre. Alors ça veut dire quoi faire pour Akadosh Baruch Hu faire revivre? Ça veut dire beaucoup de choses. D'abord, ça veut dire amener la vie au monde. Et la vie, c'est ce qu'on attend. Nous amener la vie, nous amener le bonheur. D'accord? C'est quoi la vie? La vie, c'est le bonheur. La vie, c'est le fait que je suis content de faire ce que je fais. Donc, Akadosh Baruch Hu joue le même jeu que moi. Et pas seulement ça. On a dit que quand je donne à Tzedaka, hein, je montre à Akadosh Baruch Hu que moi, je te fais confiance. Donc, toi aussi, Akadosh Baruch Hu, tu dois me faire confiance. Et donc, il dit ici, Vedaï les Mévin, ça suffit avec ce qu'on a expliqué, les Mévin pour celui qui va comprendre. C'est-à-dire qu'en vérité, là, on a donné un exemple. C'est pour la mitzvah de la Tzedaka. Mais celui qui réfléchit maintenant, il va appliquer ça à toutes les mitzvot. C'est-à-dire qu'imaginez-vous, quand on réfléchit comme ça, on comprend qu'une mitzvah qu'on fait, c'est pas seulement un petit combat personnel qu'on fait, c'est un impact mondial. V'chol maskil al davar nifla vegadolze. Tout celui qui va réfléchir sur ce grand concept qu'on a expliqué, ce concept extraordinaire qu'on vient d'expliquer.
Vas-y.
D'accord? Imtsa tuftam vedat, il va comprendre parfaitement kamagdolim divrei chamimzal, combien sont grandes les paroles de nos chachamim, shamrou, qu'ils ont dit, Akol, les filles, rov amasé, que tout dépend non pas de la grandeur de l'action, mais tout dépend, rov amasé, du nombre de fois qu'on a fait l'action. Est-ce que vous comprenez maintenant? Parce que ce qui compte, c'est pas le, ce qui compte pour Akadosh Baruch, c'est pas spécialement le nombre. Ce qui compte pour Akadosh Baruch, c'est pas le compte, d'accord? La somme. C'est le nombre de fois que tu l'as fait. Et que chaque fois que tu le fais, comme elle l'expliquait ici, chaque fois que tu le fais, eh ben, quelque part, d'abord, il y a un acquis pour moi, mais à part ça, en haut, ça fait des choses extraordinaires.
Tu génères des... Donc, on a carrément zappé ce résout, là.
Exactement. On a complètement zappé ce résout.
Pour la tzedaka, là, c'est...
Non. C'est pour... C'est pas pour la tzedaka, c'est pratiquement pour tout.
C'est pour tous, en vérité. Pour tout ce qui peut être, échelonné, doit être échelonné.
Alors que c'est quoi la mitzvah de Rizout?
Oui, mais l'empressement, ça n'a rien à voir.
L'empressé à échelonner.
C'est très simple, parce que, dans la mitzvah de Rizout, Abraham Avinu, elle a commencé dans quelle mitzvah? Qu'est-ce que Dieu lui a demandé? Il a demandé de quoi? De tuer son fils.
Oui, il a pas dit à quelle heure.
Il peut pas le tuer en morceaux, son fils. Il peut pas dire, bon, tiens, je t'enlève un œil, une main, après je t'enlève un bras. Après je t'enlève un pied.
Non, il s'est levé plus tôt, il a fait tout plus tôt.
Tu comprends? Donc là, il fallait payer d'un coup, donc il n'y avait pas le choix. On est d'accord. On a changé de chaîne, hein. Bah oui. Tu peux dire, attends, doucement, on va faire la mise, on va faire goûter la mise. Et du coup, demain, on coupe l'autre main.
Mais on va, t'inquiète pas, avance.
Continue, t'inquiète pas. Demain, on continue. Demain, d'accord? Seulement Dieu l'a dit tout de suite, on peut faire tout de suite. On n'a pas le choix. Mais quand c'est une mitzvah qui peut être échelonnée, c'est évident qu'il faut le faire. D'accord? Toutes les mitzvot.
Non, mais je pense pas que le fait d'échelonner, ça annule ou ça annule la zrezout.
Bah oui.
Si.
Une motivation, mais
si.
Qui est... Mais si, c'est ça la zrezout.
Si, ça peut annuler, bien sûr.
Non, mais ton échelonnement, si, tu peux le faire
avec... Dans le cas concret qu'on a dit, c'est...
À l'inverse, par exemple. Parce que si tu sais que tu peux donner 1000 euros par an,
oui,
que tu vas donner 3 euros tous les jours, peut-être qu'à un moment donné, tu vas dire, franchement, j'ai déjà donné, pendant ces 10 jours que je donne, peut-être c'est moins motivé la deuxième fois, tu dis, bon, si je ne donne pas aujourd'hui, c'est pas grave.
C'est la question de tout à l'heure. D'accord. Donc, dans ce cas-là, c'est évident que s'il y a ce paramètre-là, c'est évident que ce qui compte, c'est de donner. Il faut donner. C'est évident, ça. Mais moi, je pars dans le cas où je sais que je vais donner. Non, c'est un bon point ce que vous avez dit les deux. Ça veut dire que si tu sais que si je donne pas maintenant, si c'est pas fait, je risque de jamais le faire.
Je le sais parce que pourquoi je sais, je sais pas pourquoi. Des fois, vaut mieux qu'on donne parce que c'est.
Oui, après, je peux avoir des imprévus après qui vont tomber sur la tête. Mais indépendant de ta volonté.
Ouais, exactement.
C'est indépendant de ta volonté.
On a besoin de réfléchir.
De pas maîtriser le demain.
Maintenant, les 10 fois, exactement. Tu peux les faire avec empressement.
Les
parce que tu les sais 10 fois. À chaque fois,
tu sais que c'est le jour tu vas faire.
Exactement.
Dans un autre problème, c'est le cas du bitachon. C'est-à-dire justement la confiance en Dieu. Même sur le bitachon, il y a le concret aussi, je veux dire.
Bien sûr. Bah oui, mais ça reste.
Je veux pas un sommer à la NES non plus.
Bien sûr.
Je vais pas compter sur le miracle non plus.
Bon. Alors maintenant, il va expliquer une autre Gemara.
faut compter sur le miracle.
La Gemara dans le traité Baba Batra, on finira avec ça pour aujourd'hui, comme ça on finira la lettre. La Gemara dans le traité Baba Batra, elle dit que de la tzedaka shemekarevet et ageula. Elle dit grande est la tzedaka, car la tzedaka rapproche. Non, je l'ai pas lu dans les mots encore. Je vais expliquer. La Gemara a dit que grande est la tzedaka, car la tzedaka rapproche la geula. Quel rapport entre la tzedaka et la geula?
Je sais pas.
Pourquoi? C'est un truc éteint.
T'as réfléchi avant de répondre.
C'est que la geula, c'est Mashiach. Quel rapport entre la tzedaka et geula?
A priori, quand
c'est un truc que les rabbins ils ont inventé pour.
A priori, quand Mashiach il arrive, les morts ils revivent, on est en plein dans la vie. Et donc.
Quel rapport avec la tzedaka?
La tzedaka, on dit que ça amène la vie.
Oui, mais quel rapport avec? Toi, tu dis c'est un rapport avec la résurrection des morts.
Non, c'est pas ce que
tu viens de dire.
Non, c'est pas exactement ça. Alors, je me suis mal exprimé. Oui. Ce que j'ai dit, c'est que, comme tu as dit tout à l'heure, que l'une des facettes de la tzedaka, c'était d'amener la vie.
Oui, c'est la facette principale.
C'était d'amener la vie. Et comme dans la venue du Mashiach, une facette de la venue du Mashiach, c'est de ramener 100% de la vie.
Ben voilà.
Alors, et ceux comme nous, si Dieu veut, qui vont pas mourir, d'accord, et qui directement ils vont aller à Mashiach. D'accord.
Eh ben c'est pas grave, ils auront gagné la longue vie.
Bah c'est grâce à eux qu'ils ont fait.
Okay. C'est un bon point, c'est un bon début. Je vais expliquer. Allez, vas-y.
Joseph. C'est du chesed déjà.
Et donc.
On a dit que le temple il a été détruit à cause de Sinatrinam.
Ah bien oui.
Et maintenant, pour contrer Sinatrinam, il faut faire du chesed. Du chesed, c'est du.
Donc toi, tu veux dire la tzedaka, la tzedaka répare la cause de la galoute.
Voilà, c'est ça.
Mais
c'est même Mashiach si tu répares la cause de la Geoula.
Un bon point ce que tu dis, oui. C'est-à-dire toi tu prends de l'autre sens. Tu dis pas que ça rapproche la Geoula, tu dis que ça répare la cause de la Geoula, donc automatiquement ça rapproche la Geoula. D'accord. Ici il explique autre chose. Non, c'est un bon point parce qu'ici il explique autre chose. S'il dit comme ça, il dit c'est très simple. Il dit c'est quoi la Geoula? Qu'est-ce qui va changer dans la Geoula? On continuera à vivre de la même manière. On continuera à se lever le matin, à dormir le soir, on continuera à vivre de la même manière. Qu'est-ce qui va changer? Oui, mais.
Dans quoi?
La vie éternelle, non?
Oui, mais la vie éternelle, ça veut pas dire qu'on va pas dormir.
Oui, mais on changera, mais ça
la carte de l'eau,
écoutez,
tu viendras en cours quand même.
Qu'est-ce qui va changer? D'accord? Ce qui va changer, on l'avait étudié une fois, c'est ce que dit Rambam. Rambam, il dit que quand Mashiach va venir, qu'est-ce qui va se passer? Quand Mashiach va venir, les gens seront bien dans leur tête. Ils seront heureux dans leur tête.
Léger?
Non, bien. T'es à l'aise, t'es bien dans ta tête.
C'est normal qu'ils sentent bien.
Attends deux secondes. Ça veut dire qu'ils auront l'argent qu'ils veulent. Ils auront l'étude qu'ils veulent. Ils auront la compréhension qu'ils veulent. Attends deux secondes. Non, en plus, c'est d'accord. Laissez-moi juste expliquer la raison. Je finis juste avec ça. Excusez-moi. Donnez-moi 30 secondes, s'il vous plaît. C'est quoi la Geoula? D'accord? La Geoula, c'est la vie. La Geoula, c'est la vie. C'est quoi la vraie vie? D'accord? La vie, c'est pas de respirer. C'est pas de la vie. Vous avez des gens, c'est des morts vivants. La Gemara a dit que les Rechaïm, de leur vivant, ils sont appelés morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de bonheur dans leur vie. Donc, comme ils n'ont pas de vrai bonheur dans leur vie, donc même de leur vivant, ils sont appelés morts. La vie, c'est pas respirer.
Alors, attends, c'est deux quoi secondes, le bonheur,
je termine.
Dans la définition de...
Le vrai bonheur, on l'aura quand Mashiach arrivera.
Non, mais attends, le vrai bonheur, d'accord. Laisse, on n'est pas Mashiach. Quand, si Dieu veut, il va venir Mashiach, on sera dans le vrai bonheur. Mais avant, on est dans le faux bonheur, c'est quoi?
Le vrai bonheur, c'est de sentir que tu accomplis quelque chose dans ta vie.
C'est la quête du bonheur.
Pas de sentir que tu kiffes. Ça, c'est un kiff. C'est quoi la différence entre le kiff et le bonheur? C'est que le kiff, j'ai acheté un kiff, j'ai payé ce qu'il faut.
Mais un rachat, il te dit, moi je kiffe, moi. Je vais ici.
Mais il n'a pas le bonheur. Le bonheur, c'est pas le kiff. Le bonheur, c'est quand tu sens que tu as accompli quelque chose. Ça n'a rien à voir. D'accord? Ah oui. Donc, je reprends. C'est quoi la Geoula? La Geoula, c'est la vie. Puisque c'est quoi la vie? La vie, c'est le bonheur. Donc, Gedola, Tzedaka, Shem Karavet et Tagoula. Quand moi je donne la Tzedaka à quelqu'un, qu'est-ce que je lui ai donné? C'est pas de l'argent que je lui ai donné. Quand j'ai donné 1 euro à un pauvre, c'est pas seulement le 1 euro que j'ai donné. C'est un sourire que je lui ai donné. C'est une vie, de la vie que je lui ai donné parce que je lui ai donné de l'importance. Donc pourquoi la tzedaka approche la geoula? Parce que pourquoi nous on attend la geoula? Parce que quand Akadosh Baruch Hu veut nous amener la geoula, il veut nous amener la vie, il veut nous amener le bonheur. Donc il y a un rapport particulier entre la tzedaka et la geoula. Les deux sont exactement le même concept. Quand moi je donne la tzedaka, je fais revivre quelqu'un, je lui donne un sens à sa vie. Il est content, il va se lever avec un sourire. Ça veut dire que
te dire Rambam,
il te dit quand tu donnes la tzedaka à quelqu'un, il faut pas lui donner en lui jetant.
Même sans jeter. Parce que, hein.
Dans ce cas-là, il n'avait pas la tzedaka.
Il a tellement d'habitude de donner.
Il faut le donner.
Oui, mais il ne fait plus rien.
La tzedaka, il faut la donner d'accord. Avec le sourire. Tu lui donnes pas que de l'argent. Tu lui donnes la vie. Tu lui donnes l'envie de vivre. Eh ben, pourquoi on attend Mashiach? C'est pour ça. Pour être content de ce qu'on fait. pour avoir le bonheur, pour finalement comprendre ce qu'on fait. Aller jusqu'au bout. Donc la tzedaka et la geoula sont deux choses qui se ressemblent énormément. Voilà, il te dit l'Admor HaZaken ici, donc j'ai terminé à l'oral. Il dit voilà pourquoi on dit que gedola tzedaka shem karavet et geoula. Parce que rappelez-vous, Akadosh Baruch Hu, il joue le même jeu que nous. Tu fais la soumission, il doit faire la soumission. D'accord? Tu as confiance en lui, il doit avoir confiance en toi. Il joue le même jeu que toi. Tu lui montres que tu penses à des gens que personne pense à eux. Tu lui montres que tu donnes le bonheur à des gens qui étaient jetés. Eh ben, nous, on est jetés. On est en galoute. Donc, Akadosh Baruch Hu, ça le pousse lui aussi à amener le bonheur à ceux qui sont jetés.
Il a la soumission à nous.
Oui. Bien sûr. La soumission à nous, ça veut dire que, oui, c'est être dépendant de nous, comme Kaviachol, si on peut dire. Il joue le même jeu que nous. Comme un père et un fils. Donnant, donnant.
Du temps, il te donne du temps.
Donnant, donnant. Donc ça veut dire que voilà pourquoi les Chachamim insistent beaucoup, le Rabbi insistait beaucoup sur le mitzvah de Tzedaka, le mifsa Tzedaka. Il dit que c'est très important d'habituer les gens à donner la Tzedaka, même les enfants. Il avait demandé que chaque enfant installe dans sa chambre une boîte de Tzedaka, pour habituer les enfants dès le plus jeune âge à donner la Tzedaka. Parce que la Tzedaka, c'est ce qu'amène la Geoula, parce que c'est exactement le même concept. Je pense aux autres, je fais revivre quelqu'un. Akadosh Baruch Hu me fera revivre. Donc c'est pour ça, hein, quand on voit ça ici, en vérité, on comprend que la plus belle tzedaka, c'est pas spécialement quand on l'a dans une boîte. Quand on a des fois la chance qu'il y a des gens qui viennent de nous demander la tzedaka, quand t'as quelqu'un qui tend la main, qui te donne la tzedaka, c'est une tzedaka qui est infiniment plus forte que si je mets dans une boîte. Pourquoi? Parce que quand tu mets dans une boîte, est-ce que tu peux dire que t'as eu un sentiment de pitié sur la chose, sur une personne? Il n'y a pas tout ce paramètre-là. J'ai fait la mitzvah, mais il n'y a pas eu tout ce paramètre. Alors qu'en vérité, on a expliqué qu'un paramètre très important dans la mitzvah de tzedaka, c'est quoi? C'est le fait d'avoir pitié sur quelqu'un. Ça, quand tu as quelqu'un qui vient, vous savez, le matin ici, pour ceux qui sont là le matin, on a beaucoup de gens qui viennent de temps en temps. En Hachem. Mais tu vois dans leur regard qu'ils ont besoin de ton argent. Même si tu donnes 1 euro, il te fait un grand sourire. D'accord?
Ils
ont rien. Bon, il faut 5 quand même, 5 après.
Mais je sais pas. Hein?
Mais c'est que. Moi justement, j'avais un cours précédent, t'avais dit.
Tu donnes un euro le mec, je crois
pas qu'il ait dit. Il faut que ça fasse quelque chose quand même.
C'est un autre paramètre encore.
Parce que quand tu étais
à ça, c'est un cours qu'on a fait il y a 2 mois. Ça, c'est un autre paramètre. C'est Maasé Avoda. C'est le cours qu'on a fait sur Maasé Avoda. C'est vrai.
En lissant ton truc, tu as presque oublié ce paramètre-là.
C'est vrai. Tu as raison. Mais d'un autre côté, ce qu'on perd en faisant tout d'un coup. C'est que pour toi, c'était un effort qui a duré 5 minutes, après c'est fini. Il n'y a pas d'acquis réellement. J'ai pas acquis une victoire contre le Yetzara. Et tous les 4 points qu'on a expliqués. D'accord? Donc voilà pourquoi la vidéo de Tzedaka est très importante. Et Gedola Tzedaka, Shemka Revet, Gedola Tzedaka, Shemka Revet et Tageoula, grande et la Tzedaka qui approche la Geoula. J'avais lu une fois un pirouche qui disait, c'est exactement la même chose pour la Amida qu'on fait. Est-ce que vous avez remarqué la Amida qu'on fait? À chaque fois, on fait la même Amida. Elle change pas la Amida. Tu fais la même Amida 3 fois par jour. J'ai entendu une fois un rav qui a posé la question, il avait dit, mais c'est évident que quand tu fais 3 fois par jour la même chose, tu peux pas mettre toute ta tête dedans. On tombe dans la routine, c'est sûr qu'on tombe dans la routine. Il dit, pourquoi on n'a pas fait un autre système? On n'a pas dit, écoute, tu fais une amida par semaine et tu mets le paquet. Ouais. L'amida du dimanche matin ou du samedi matin, ce que tu veux, tu mets le paquet. Franchement, on n'aurait pas eu plus de kavana dans cette amida? The amida de la semaine.
C'est pas sûr, hein, parce qu'après... Tu rentres quand même dans l'habitude.
T'as moins de risques de tomber dans la routine.
T'as moins de risques, mais tu rentres quand même dans la routine.
C'est un peu choix de quoi?
Tu peux mieux travailler quand c'est pas les jours.
J'ai compris, mais c'est plus difficile quand tu le fais de toutes les façons 3 fois par jour. Il avait répondu comme ça. Il avait dit qu'en vérité, le but quand on fait la midi, quand on fait toutes ces choses-là, c'est comme on a expliqué ici. C'est pas forcément. Bien sûr, si t'as la kavana, t'as une super kavana, c'est super. 2 secondes. Si t'as une super kavana, c'est super. Bravo, quoi, la kavane. Mais le fait que tu le refais, chaque fois que tu le fais, ça rentre un petit peu, ça rentre, et à la fin, ça va rentrer. Alors que d'un autre côté, quand tu fais un effort, tu dis, bon, dimanche matin, de 8h à 10h, je fais ma amida, personne ne me parle. C'est un effort qui va durer 2 heures, après le reste de la semaine, qu'est-ce qui se passe? Fini. Voilà. Le fait que ce soit récurrent, que ça revienne, bah finalement, ça fait que finalement, ça va rentrer. Donc, ce Rav expliquait comme ça. Il dit, par exemple, dans la Mida, on dit tous les jours, Slach lanov nu kichatanu. Pardonne-nous, notre père, car nous avons fauté. Et il disait comme ça. Il disait, on réfléchit pas à ce qu'on dit. D'accord? Je vais expliquer à l'oral. Il dit, une personne ne pense pas à ce qu'il dit. Mais après, à force de répéter, il va dire, attends, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Slach lanov nu kichatanu, pardonne-moi quand on a fauté. Ah, mais c'est vrai, mais j'ai fauté. Attends, il faut demander pardon. Ça veut dire qu'à force de répéter, ça rentre. Alors que se concentrer une fois de temps en temps, ça aurait pas eu le même effet. Donc, qu'est-ce qui est plus important? Ce qui est plus important, c'est le nombre de fois où on va faire la chose. C'est encore plus important que la srisout. Voilà le chidouche pour aujourd'hui. C'est un grand chidouche qu'on a expliqué aujourd'hui. C'est encore plus important que la srisout.
Enfin, on va le faire tous les jours.
Non. Justement.
Mais pourtant, il y a vraiment.
Eh ben, voilà, justement. Tu peux bien me rappeler ça, parce que ce qu'avait expliqué le Rav, il avait dit qu'en vérité, l'Amida qu'on fait tous les jours a plus d'impact que l'Amida de la Negila de Yom Kippour. Pourquoi? Parce que l'Amida de la Yom Kippour, combien de temps a duré? Une demi-heure? Une heure? D'accord? Qu'est-ce qui est resté de ça?
25 heures, moi, je dirais.
Qu'est-ce qui est resté de ça? Honnêtement.
Le goût du chauffard.
Qu'est-ce qui est resté de ça? Walou? Rien. Pourquoi? Parce qu'on s'est concentré pour une heure, on a mis le paquet pour une heure, après c'est passé, c'est fini.
Oui, non. Ouais. Je suis pas d'accord.
On s'est préparé quand même,
Non, parce que regarde.
Ah, qu'est-ce qui te reste?
La kavana qu'il a mis.
C'est quoi la dernière fois que t'as pensé à la Neila?
Non, non, j'explique. La kavana qu'il a mis. Alors dans sa mida, il a fait des demandes. Mais comme il n'y avait pas de kavana, sa demande
mais c'est pas
elle sera pas aussi élevée.
Pas du tout.
Que là, quoi, pas du tout. Bien non. Sûr. Quand tu fais une page, tu as amida. Pour un compte, il faut qu'un sadique.
Je parle. Non. Pour que la prière, je parle de l'impact.
Pour que la demande que tu veux arrive à
bien sûr
à
que ça
euros.
Bien sûr que les portes du ciel étaient ouvertes.
Donc là, au moment c'est vrai qu'il y en a plein, ils mettent encore plus de kavana, il a beaucoup encore plus de chances que
c'est
ça
clair
arrive.
Qu'à ce moment-là, les portes du ciel sont ouvertes et que Dieu t'a écouté. Alors, mais voilà, moi, je te demande, en tant qu'acquis, à toi, qu'est-ce qui te reste de ça?
Cette sensation que tu avais quand
t'es... Mais exactement.
C'est quand la dernière fois que tu as pensé à la sensation que tu avais pendant la Neila? Honnêtement.
C'est quand?
Oui.
Bah, c'était le jour en question.
Ouais, exactement.
Exactement. Honnêtement, soyons honnêtes.
Oui, mais c'est exactement, il a raison, chaque année.
Le lendemain de Kippour, t'as pensé à l'année, t'as dit, ouais, il y a l'année, là, c'était chaud.
Si, quoique. Non, le lendemain, si, quoique,
on a dit. Aujourd'hui, on l'a vendu cher.
Mais, si, il y a quand même quelque chose. Mais pendant toute l'année, la personne, elle a pris,
rien. Justement, ce qui te dit, non. Ce qui t'explique, c'est que la fille de toute l'année, en vérité, sans que tu te rendes compte, c'est une petite goutte. Elle a plus d'impact. Elle a plus d'impact. Que la. Il faut les deux. Il faut les deux. Il y a des moments où il faut.
Mais non, puisque après, d'après ce que tu dis, c'est comme si.
Tous les jours.
Non, les deux. C'est pas ça. Non, c'est veux dire, c'est-à-dire que maintenant, j'ai même pas besoin de mettre.
Je veux donner
de savoir pourquoi je fais ça. Je l'ai fait. On m'a dit de la faire. Je l'ai fait.
Je veux donner un exemple concret.
Ça revient au même.
Bon, déjà là, faut qu'on s'arrête. Je vais donner un exemple concret, d'accord? On va dire, par exemple, un homme, il veut montrer à sa femme qu'il aime. Il veut lui montrer les signes d'affection. Les signes d'affection qu'il veut lui montrer tous les jours avec des petites attentions vont avoir beaucoup plus d'impact, bien que ça te coûte pas grand chose, c'est des petites attentions, beaucoup plus d'impact que le gros cadeau qu'il va offrir pour son anniversaire. Mais il faut quand même les deux. Parce que quand c'est l'anniversaire, il faut offrir le gros cadeau. Mais en vérité, ce gros cadeau-là, elle te dit, waouh, merci beaucoup, etc. Le lendemain, elle a oublié. Le lendemain, elle dit, ouais, je pense pas à moi. Ça veut dire quoi? Il faut les deux.
Mais, ça sent le vécu.
D'accord? Mais, ce qu'il faut savoir.
Il y a pas mieux qu'une grosse bague, me dit.
Ce qu'il faut savoir. Non, pas du tout. Ça marche pas du tout, parce que sache que les petites attentions de tous les jours, ça a beaucoup plus d'impact que le gros cadeau.
Exactement, d'accord.
Non, une bague, ça, un bijou, ça a un effet constant.
Mais là, c'est
bon, à un moment donné, c'est vrai que ça s'amuse, qu'il faut.
Tu te rends pas compte, ça a beaucoup plus d'impact. Pourquoi ça a beaucoup plus d'impact? Parce que c'est durable. Le cadeau, deux jours, trois jours plus tard, une semaine plus tard, elle a oublié.
Non, pas le bijou.
C'est un acquis déjà.
Durable, le diamant.
Tant que tu payes le crédit.
C'est le prix de la maison ici.
Là, il y a deux pièces là.
J'ai pas fini de le payer encore.
Le diamant est éternel.
D'accord. Bon, allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Khazak à tous.
Il est encore à la boutique.